Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué autour de la table. Maxence, comment ça va Maxence ?
Ça va très bien Eladj.
T'as passé de bonnes vacances ?
Ça fait longtemps. Ouais, bonnes vacances mais qui se termine et c'est bien comme ça, on enchaîne sur une saison de football.
Une grosse semaine qui arrive.
Une grosse semaine qui arrive.
Notamment à l'Olympique de Marseille. En ce moment c'est un peu plus belle la vie du côté de la Côte d'Azur. Hein, avec tout ce qui s'est passé en début de saison.
C'est l'OM.
On va y revenir. Cheikh Hamza, comment ça va ?
Bien, bien.
Toi, t'es content en 4 sur 4, Casablanca, Kylian Mbappé à fond
Ouais, vraiment, vraiment. Je suis très content, en fait. Et tout va comme on l'avait souhaité, donc on va pas en dire plus. On va laisser la fin, vraiment, pour parler, en fait.
Merci, Cheikh Hamza. Lucas, champion en titre pour la première fois. Assis autour de la table, t'es champion en titre.
Et vainqueur de la Super Coupe d'Europe. À jamais les premiers.
Et vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Et pas très loin de la Coupe du Monde des clubs.
C'est ça. Bon, c'était un peu le petit bémol, mais bon, il s'était quand même carbonisé. On espère surtout que les blessures vont s'arrêter et que l'équipe va pouvoir tourner. Je pense qu'on en reparlera dans l'émission.
Je pense aussi. Et avec nous, bien évidemment, Monsieur Conté, comment ça va, Abou ?
Ça va et toi ? Bonsoir Elad, bonsoir à tous.
Ça va, merci. T'as passé un bon début de saison ?
Moi, très bon début de saison. Moi, je suis un pétard, hein. Franchement, je suis heureux. La vie, elle est belle. Enfin, je trouve que du côté de Marseille, tout a été géré de manière vraiment intelligente et fine, comme à l'habitude à Marseille. Donc voilà. En fait, on a fait du Marseille. On ne change pas, nous, d'année en année. C'est une formule qui fonctionne.
Ça tombe bien, parce qu'on va commencer dans le vif du sujet avec la Ligue 1. Marseille, bien évidemment, qui sont au cœur des débats, en tout cas ces dernières semaines. Marseille qui commence mal la saison avec 2 défaites déjà sur 4, si on parle que footballistiquement parlant. Et on est obligé de rappeler que pas mal de choses du côté de Marseille, hein, des grosses tensions suite au premier point perdu durant ce début de saison. On a pu voir Raw avec Adrien Rabiot en venir aux mains. Voilà, c'était très grave apparemment.
On ne l'a pas vu justement, c'est ça le problème.
On ne l'a pas vu, mais on l'a entendu.
On va le voir, c'est l'année prochaine dans la série.
Voilà, on l'a entendu en tout cas et c'était une violence inouïe un peu, c'est ce qu'il disait le président.
Pour être totalement honnête, moi je pense qu'ils ont géré cette affaire avec beaucoup d'émotion. Je pense que c'est une erreur qui a été faite collectivement et qu'ils se sont rendus compte un peu plus tard. Je pense qu'ils ont réagi à chaud, ils ont réagi trop vite, ils ont voulu mettre l'institution au-dessus de tout. Ça a commencé à faire des communiqués froids comme le Real Madrid, on s'est pris pour je sais pas qui. L'Olympique de Marseille, les gars, doucement, il y a eu une bagarre. Quand tu parles de violence inouïe, je pense que c'est le terme qu'ils ont utilisé, mais je suis pas sûr que ce soit la réalité. Tu ressors avec 2 joueurs qui n'ont pas de cocard, tu ressors avec Adrien Rabiot qui est en conférence de presse de présentation avec Milan AC qui t'explique finalement que Rose est un bon gars et qu'il y a eu un échauffouré et que ça s'arrête là. Et je pense que ça a été mal géré malheureusement et ça s'explique aussi par ce qu'elle a dit Véronique Rabiot, même si dans tout ce qu'elle a dit, elle a dit beaucoup de bêtises Madame Rabiot. Là où elle a eu raison, c'est de dire que dans le trio qui gère l'OM aujourd'hui, bah, le plus âgé finalement c'est Roberto De Zerbi. Pablo Longoria, c'est jeune encore. Mehdi Benatia, c'est jeune encore. Et donc, forcément, il y a des réactions comme ça qui sont un peu à chaud, qui sont gérées un peu avec l'inexpérience qu'aurait géré autrement peut-être Pape Diouf ou paix à son âme Bernard Tapie. Et c'est un peu dommage.
Leurs âmes, tous les deux.
Ah oui, c'est vrai aussi. Oui. C'est vrai qu'il est paix à son âme Pape Diouf aussi. Mais ouais, je pense que ça a été géré avec légèrement de l'inexpérience de la part du trio marseillais.
Et je pense aussi qu'ils se sont fait avoir par l'expérience justement de Véronique Rabiot. C'est elle qui met de l'huile sur le feu en donnant l'info à RTL comme quoi De Zerbi veut se séparer de Rabiot, etc. Et c'est de là que tout part parce que communication de crise, l'OM est obligé de s'exprimer suite à l'intervention de Véronique Rabiot. Donc c'est là qu'on sort le fameux communiqué froid comme quoi il est mis sur la liste des transferts. Mais ça doit pas se faire à la base et je pense pas que c'était le plan initial. Non. Mais c'est Comme vous avez dit, la surémotion et tout ce qui tourne autour de l'OM qui est amplifié fois 1000 et qui lance ça.
Mais c'est encore pire que ça parce que Véronique Rabiot a fait la première intervention dont tu parles, elle en fait une deuxième où elle explique que, et pour Mehdi Benatia et pour Pablo Longoria, le rôle de président et directeur sportif est trop grand. Et en fait, pour moi, non seulement Elle a mis de l'huile sur le feu, comme tu le dis, mais elle a rendu la situation intenable. On sait quand même maintenant qu'Adrien Rabiot, il se serait quand même bien vu rester à l'OM. Et pour moi, celle qui a rendu la toute discussion impossible, c'est Véronique Rabiot.
Parce que
c'est
deux interventions successives. Benatia et De Zerbi étaient prêts à le réintégrer.
De Zerbi l'a dit, hein, c'est comme son fils, il s'occupe plus de lui que son fils. Donc il est tout à fait prêt à le réintégrer. Par contre, après ce qu'a dit Véronique Rabiot, comme ça parlait d'excuses publiques et qu'on sait qu'elle ne le fera jamais, pour moi, elle est encore plus coupable que l'institution marseillaise sur ce plan-là. Et je pense que dans le clan Rabiot aussi, il y a des. Ça fait longtemps que ça se passe mal avec leur club. Il y a aussi, certes, ils sont dans un milieu qui est difficile, mais il y a de la remise en question à avoir et ils n'ont pas l'air prêts pour ça.
Mais ils le feront pas. Mais en plus, elle a attaqué les hommes directement. Donc exactement. À partir de là, c'est terminé.
Même Greenwood, quoi. Enfin, oui, oui. On pense qu'on veut du cas Greenwood. C'est immoral, tout ce qu'on veut. Maintenant, le joueur, il est là. C'est un coéquipier de ton fils. Tu exactement. Peux pas te permettre de sortir des choses comme ça.
Ça l'a pas dérangé de porter le même maillot pendant un an. Donc, si elle avait des valeurs bien, bien établies, elle aurait peut-être refusé.
Bien sûr.
Et on est obligé. Cheikh Kenza, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? On a vu Véronique qui a dit « Je pensais avoir vu le pire avec le Paris Saint-Germain, mais non, du tout. Et si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais jamais mis les pieds, en fait, à Marseille. Hein. » C'est ce qu'il disait à son fils. En tout cas, apparemment, c'est ce qu'elle a dit à son fils et qu'elle ne comprenait pas. Et même qu'elle l'a dit aussi à Mehdi Benatia que « Je serai à la place de mon fils, je ne serai jamais venu à Marseille parce que vous n'avez pas grand-chose à m'apporter. » En tout cas, elle a eu des déclarations très dures. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de tout
ça ? Ouais, je crois que ses propos ont été virulents dans l'ensemble parce que là, à l'entendre, elle parle d'éthique, mais je crois qu'elle en manque sincèrement parce qu'en fait, du point de vue déjà, en fait, c'est-à-dire se mettre les ex-coéquipiers de ton fils à dos, à se mettre déjà, en fait, le deuxième club de France en termes de représentation, le premier en termes de supporters, en termes d'engouement vraiment sur le dos, ça fait un peu trop, en fait. Je crois qu'au lieu de chercher à enlever la poudre dans l'œil de l'autre, il faut chercher même à voir si en fait, la mienne aussi n'est pas un peu abîmée ou par moment, il faut vraiment que Rabiot puisse se remettre en cause. C'est des choses qui arrivent, c'est des deux bois et tout ça. C'est un sport, en fait, voilà, comme on dit, c'est un sport collectif. Donc par moment, quand il y a une défaite, ça arrive, tout vestiaire vraiment. Mais le cas n'a pas été bien géré en antenne. Et Véronique Rabiot, déjà, du point de vue qu'elle prend parti, elle est un peu partielle. Dans son communiqué et tout.
Très légèrement.
Ouais, en fait, dans son communiqué aussi dans sa manière de s'exprimer et tout ça. Déjà, quand on a agent de joueur et que Rabiot, c'est pas un novice dans ce cas, parce qu'il a fait plusieurs copes, déjà Titi parisien, après il a tourné un peu, Juventus et tout ça. Donc, déjà, c'est quelqu'un en fait, qui a de l'expérience, qui sait comment déjà, en fait, et du coup, sa mère. Elle a eu déjà des soucis avec le PSG, donc il ne voulait pas encore. Je crois qu'elle est allée trop loin, comme il a dit, en fait. Elle a mis un peu les émotions. C'est pas une attitude responsable, déjà. C'est pas une attitude, déjà, pour une personne vraiment, comme elle lui dit tout le temps, elle le clame haut et fort et tout, qu'en fait, c'est une personne éduquée. Non, je crois que là, elle a pris vraiment la déroute. Je crois qu'elle a fait une sortie de route, vraiment. Elle n'aurait pas dû vraiment utiliser ces propos-là. En fait, parce que comme il a dit Maxime, c'est elle qui rajoute de l'huile sur le feu. En fait, déjà avec son communiqué, le vestiaire est obligé en fait d'étaler vraiment la fesse sur la place publique.
Et puis quand t'as des problèmes partout où tu vas, c'est peut-être que le problème c'est toi.
Voilà, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il faut pas. À un moment donné, il faut pas. Se dire que oui, il faut se remettre en cause. Il faudrait qu'elle ait une discussion sérieuse avec son gamin, avec son garçon, pour lui dire que oui, quand on décide d'être professionnel. Vraiment, quand on joue au football, c'est un sport d'équipe. Donc, qui dit équipe, différentes humeurs. Mais à un moment donné, il faut redescendre en fait.
Oui, après, moi, franchement, je pense que le problème, c'est plus Véronique que Adrien. Parce que même son message d'adieu pour les supporters marseillais, il est génial, il est beau. Oui. Quand elle nous explique qu'on ne sait pas ce que l'Olympique de Marseille a pu apporter à Adrien, un an d'amour, de passion. Je pense que c'est vraiment le club où il s'est senti le mieux depuis le début de sa carrière.
Ouais, le
où
mieux
en tout cas,
aimé.
Il s'est senti en osmose avec le public.
Le plus aimé. Et
dans un rôle de leader, ouais. Aimé des coéquipiers aussi, parce qu'il n'avait jamais eu ce rôle-là dans un club.
Exactement.
À PSG, c'était le petit. À la Juve, c'était un adjoint. Là, à l'OM, il a pris ce rôle bien de sûr. Leader. Il était parmi les cadres avec Højbjerg, avec Balerdi. Il était aimé de tous les joueurs, les jeunes, les plus anciens, le coach, le directeur sportif. Donc je pense que clairement, c'est un poison pour lui, sa mère.
Et si c'était pas sa mère, ça se serait fini autrement. Bien parce sûr. Que tu peux pas désavouer ta mère publiquement. Finalement, ta mère, c'est ta
mère.
Si
ça avait été un vrai agent, il aurait passé un coup de fil à Longoria le lendemain.
Ouais, disant, essayer de ringler les
chiffres. On fait comment des excuses publiques, un truc au vélodrome, tu vas serrer la main à Ro et puis c'est fini.
Voilà, et on en passe. Mais comme on l'a dit, en fait, elle en rajoute tout le temps, même comme tu viens de le dire, en fait, tu viens de lucider. Le problème, on constate vraiment que c'est pas Adrien, en fait. C'est sa mère, vraiment. Je crois que ouais, quand on est mal conseillé, quand on est mal entouré, ça finit par impacter vraiment sa carrière. Au final, on l'a vu, en fait. Rabiot, déjà, c'est un espoir du football français, mais qui a jusqu'à présent qui n'a pas pu franchir un certain cap et c'est un palier en fait comme tu imagines aujourd'hui Tchouaméni déjà au Real de Madrid
Kenzel a des comptes à régler avec Rabiot
ouais tu t'imagines aujourd'hui au Real Tchouaméni en fait on a vu en fait il y a voilà des joueurs de la trempe de Rabiot qui ont réussi à exploser autre part
raison,
tu vois que
raison.
Ça montre vraiment que en fait c'est-à-dire la carrière du jeune homme est mal gérée Et du coup, quand vraiment tu as ta mère qui s'y met dans tes affaires, du coup, elle réagit par émotion. Elle est émotive, on comprend. En fait, c'est l'instinct maternel qui prend le dessus, en fait, sur l'instinct professionnel. Donc on a déjà un partage.
Pour revenir sur le sportif, quand même, moi je suis quand même d'accord, juste pour revenir sur le sportif, quand même, que contrairement à ce que disait sa mère, Marseille lui a beaucoup apporté, comme le disait Maxence, déjà sur un rôle de leader. Et on voit que même dans le jeu, il a pris un peu une autre dimension. J'ai trouvé que ça se voyait même sur le match de ce week-end de l'AC Milan. Il prend plus d'initiative offensivement, il se projette mieux. Et ça, comme c'était un vrai leader, c'est une chose qu'il a beaucoup fait à Marseille et qui lui manquait à la Juve. Il était critiqué pour ça. Donc moi, je pense que même en tant que joueur, en tant que capitaine, en tant que leader, il a beaucoup, Marseille lui a beaucoup apporté. Et je trouve que c'est un peu aussi craché dans la soupe que de le nier. Voilà.
Oui, mais il a mûri avec Marseille. On a vu que vraiment, on a eu un autre Rabiot, en fait. Il a même commencé à se transcender et tout ça. Il avait même laissé ses côtés débois, en fait. Cette mauvaise image qu'on avait de lui en France. Parce qu'on ne le veut ou pas, en fait. Aujourd'hui, en fait, Rabiot, ça serait un peu comme un Sami Nasri, en fait. Parce qu'il se fait dézinguer par la presse quand tu as la presse à dos, mais c'est compliqué.
On va enchaîner parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Merci. En tout cas, on a compris un peu ce qui se passe du côté de Marseille. On va rappeler quand même le résultat, hein, les résultats qu'ils ont fait depuis ce début de saison. Marseille, qui se sont imposés déjà dernier match, hein, ils se sont largement imposés. De quoi un peu se réconforter avant cette grosse semaine ?
Ouais, non, c'est une victoire qui, fait du bien. C'est une victoire qui te rassure sur les hommes que tu as recrutés quand même. Parce qu'on voit que Naïef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina qui jouait son premier match, c'est une autre dimension que ceux que tu avais avant. C'est inquiétant pour Balerdi, par contre. Est-ce qu'il va pouvoir prétendre à une place de titulaire dans cet effectif ? Oui, demain contre le Real Madrid parce que tu as Aguerd qui est blessé. Mais est-ce que ce sera le cas plus tard ? Non. Mais je pense que c'est une victoire, un, qui rassure, et deux, qui fait du bien toujours au moral. C'est toujours important de gagner, de mettre la manière, et en plus de ne pas encaisser de but derrière, c'est rassurant. On a vu Jeffrey Delange qui était au cage. Bon, il n'a pas eu à faire grand-chose. Donc, est-ce que ça tranche la question Delange-Ruiz ? Pas sûr, mais c'était une victoire importante et qui, je pense, va faire du bien au Marseillais. Mais cette semaine aussi, là, elle va être très importante, cette semaine.
Après, je pense que le problème de l'OM, dans le bon et dans le mauvais, hein, c'est de réagir à l'émotion et dans l'extrême. C'est-à-dire qu'après deux défaites au mois d'août, ça arrive, voilà, t'es direct dans le catastrophisme. Ah, la saison, elle va être ratée, ça va être foutu. Là, si tu perds le Real, le PSG, ce qui est probable, tu vas, ce qui est une probabilité importante, tu vas être dans le catastrophisme aussi, parce que tu vas être à 6 points du podium, ça va être dramatique. Mais la saison, c'est très très long. Et puis Marseille a commencé avec un calendrier pas évident. T'as été joué à Rennes, t'as été joué à Lyon, t'accueilles le PSG sur les 5 premières journées. Derrière, tu vas avoir des séries de matchs où tu vas jouer contre le Havre, contre Nantes, contre Toulouse. Et ça va pouvoir enchaîner, tu vas pouvoir capitaliser.
Et on n'a même pas vu leur vraie équipe en
Exactement, t'as encore des mecs qui sont pas arrivés. Medina, il a fait son premier match.
Pachaou, il est rentré seulement.
Aguerd. Pachaou, il est rentré. Traoré, il a fait un bout de match contre Lyon.
Guri, il est pas encore dans son assiette.
Il est pas encore bien dedans. Aubameyang revenait de sélection, du coup il a pas joué. Enfin, franchement, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et faut pas non plus s'emballer si demain tu tapes le Real ou dimanche tu tapes le PSG. Faut pas s'emballer en te disant que tu vas gagner le championnat et que tu vas marcher sur tout le monde.
Compte sur moi pour le faire quand même.
T'as le droit, mais je le ferai pas personnellement. Mais à l'inverse, pour moi, Marseille reste le favori pour la seconde place. Et tout va se passer comme ça doit se passer, comme l'an dernier. Et tu as une équipe qui est encore meilleure que l'an dernier, avec des concurrents qui ne sont pas forcément renforcés. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude au niveau de la Ligue 1.
Ok, merci Maxence. On va rappeler rapidement le résultat de Marseille, hein, 4-0 face à Lorient. Juste avant, c'était une défaite face à Lyon, 1-0. Ensuite, une victoire face au Paris FC, 5-2. Et une défaite face au Rennais à 10 contre 11. Hein. C'est cette victoire qui a fait un peu mal aussi. Et pour Marseille. Le Paris Saint-Germain, qui ont fait un 4 sur 4. Hein. Pas grand-chose à dire, je pense, notamment à part les blessures. On devait s'y attendre, hein, avec la grosse saison qu'il y a eu l'année dernière. On s'attendait un peu à ces problèmes musculaires, à ces petites blessures par-ci, par-là. Et là, ça arrive à un moment... fatidique un peu parce qu'on commence la Ligue des Champions.
Vaut mieux que ça arrive maintenant.
Oui, mais on commence. Ouais. Oui, mais on commence la Ligue des Champions. Je sais pas.
Faut pas la faire comme l'année dernière où Paris a eu très peur, etc. Donc je comprends qu'il y ait de l'inquiétude. Par contre, c'est vrai que je te rejoins. C'est mieux que ça arrive maintenant qu'en mars,
qu'en février. Ouais.
Et c'est vrai que si dans un mois c'est autour de Vitinha, Joao Neves et Hakimi et Nuno Mendes de faire un petit tour de 2-3 semaines pour se régénérer, ce sera pas un drame.
Pour moi, jusqu'à décembre, t'as de la marge partout. En Ligue 1, en Ligue des Champions, t'as de la marge. T'as des droits à l'erreur. Tu peux perdre des matchs.
Après,
et t'arrives en janvier, ça commence à être sérieux.
Mais non, en fait, moi, je suis pas d'accord avec cette mentalité de perdre des matchs.
Un effectif
en fait.
Resserré. Excuse-moi, Chekenza, vas-y.
Je suis pas d'accord avec cette mentalité de perdre les matchs 7, c'est vrai, en fait. Le PSG, aujourd'hui, se doit les moyens d'avoir une profondeur de banc très énorme Parce qu'en fait, quand on joue sur plusieurs tableaux, on doit être préparé au pire, en fait. Comme vous avez dit, oui, c'est vrai, avec le cumul de matchs et tout ça, il y aura des blessés, c'est des choses qu'on prévoit. Et on a un moment de la saison, on aura en fait un temps faible, en fait. Un temps où on sera en moins dans des dents, on va gagner des matchs difficilement, des 1-0, mais...
Justement, temps, en fait, mieux que ça arrive voilà, maintenant mieux que dans ça 6 mois. Maintenant.
Mais comme on le dit, en fait, déjà, en fait, pas prendre les matchs à la légère. Certes, il y a des blessés, mais le PSG, étant donné que là, maintenant, quand tu mets la barre très haute, il faut s'y maintenir, en fait. C'est pas d'y aller au sommet, côtoyer le sommet et redescendre. Ça sera rien
en
d'y
Ligue 1, en Ligue 1, tu mettais 19, tu vas gagner les matchs. Donc, il ouais. n'y a pas de souci. En fait, et en Ligue des Champions, tu peux avoir 2, 3, 4 matchs où tu passes à côté. Tu passeras quand même.
Dans les 24.
Parce que tu finiras dans les 24. Et en 16e, tu croiseras Dinamo Zagreb ou tu croiseras l'Olympiakos. Non,
et même si tu croises Liverpool, tu peux les battre.
Voilà. Donc, tu as peur de personne.
Non, vraiment, en fait.
Non, mais c'est vrai.
Il faudrait pas que les.
Attends, excuse-moi.
L'excès de confiance.
Mais on va continuer parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à traiter. Et du coup, le Paris FC qui enchaîne les bonnes performances. Paris FC qui sont imposés face à Brest, ça va quand même. C'est
ouais, oui, les deux derniers matchs sont mieux. Ouais.
Oui.
Même contre Marseille, ça allait mieux, je
oui,
trouve.
Même s'ils
perdent.
Même s'ils perdent.
Aubameyang met le troisième but, qui est quand même un peu une erreur du gardien, etc. Et il est très précis.
Non, c'est Hubert qui met le troisième.
C'est la grosse frappe, c'est pas le quatrième. Aubameyang, il met la petite frappe sur le troisième, je crois. Excuse-moi.
Ah, t'as peut-être raison.
Mais ouais, c'est le troisième Aubameyang.
C'est ça, c'est Aubameyang. En fait, Aubameyang qui fait le geste juste. Il y a un truc à faire et il le fait. Moi, je trouve que ce match. C'était plus la grande classe d'Aubameyang et on a vu quand même qu'à côté, il y a des... Non, c'est sérieux, le Paris FC. Je trouve que déjà, après un premier match raté, il y a eu un peu déjà... Est-ce qu'ils n'ont pas été assez agressifs sur le mercato, etc. Moi, je trouve quand même qu'il y a un vrai jeu collectif qui commence à se mettre en place.
Moi, c'est Paris ce week-end qu'ils m'ont rassuré. Ce week-end, ils m'ont rassuré.
Moi, le week-end dernier déjà.
Avant contre Metz, toi
ouais,
moi, contre Metz, je les avais trouvés dans le dur parce que sans le rouge, il y a le rouge qui les remet bien dans le match, mais sans le rouge, ils étaient menés par Metz à domicile et ça pouvait sentir la catastrophe parce que t'es déjà deux défaites en deux matchs.
Exactement. Même des fois comme ça, t'arrives pas à te relever justement avec la pression et le fait qu'en fait ils arrivent avec Ilan Kebal qui montre qu'en fait
qui est
déjà le niveau pour être un très bon joueur de Ligue 1. Voilà. Donc tu te dis, avec tous les ajustements qui ont été faits, moi je suis pas spécialement inquiet pour le Paris FC et
après,
ça va monter en puissance.
Faut pas
attendre qu'ils jouent la quatrième place ou un truc comme ça.
Faut pas nouer des espoirs trop importants.
En tout cas,
s'ils font top 10, top 12, c'est déjà
ce serait des belles équipes de la saison, je trouve.
En tout cas, Brest, pour eux, ça commence mal. Hein. Brest, qui sont 17e, on pense à Brest avec leur campagne en Ligue des Champions l'année dernière. Et Monaco qui font 3 victoires sur 4, c'est pas mal. Et Lille, Lille qui sont tout simplement depuis le début de saison, qui se sont fait peur hier. Mais ils ont pu
s'en sortir très très bien avec le rouge
Olivier Giroud, franchement, en début de saison, qui est très en jambes. On a même évoqué, pourquoi pas, Olivier Giroud, un retour chez les Bleus.
Qui est une hérésie totale.
Comment ?
Ce qui est une hérésie totale.
Quand tu vois le matériel devant, c'est plus possible. Mais par contre, que Lille, aujourd'hui, Hamza Ingaman qui arrive et qui a l'air de très très bien s'adapter, plus Olivier Giroud qui va le concurrencer, voire jouer autant que lui. Quand tu as une grande saison avec une Coupe d'Europe à jouer, la Ligue Europa, elle est quand même très prenante. Franchement, c'est un beau duo d'attaquants pour le LOSC. Bien joué cet été.
Et moi, j'ai hâte de voir les deux ensemble. Je me dis que hier, ça n'a pas trop marché sur la période où ils étaient ensemble sur le terrain. Mais avec un peu plus de travail et de connaissances entre les deux, je pense que les profils sont hyper complémentaires. Par contre, pour revenir sur Monaco, je trouve que leur début de saison est hyper surcoté. C'est-à-dire entre la production et les points qu'ils prennent, ils en prennent, c'est très bien, ils sont à 9 points sur 12. Mais Monaco,
le
je suis inquiet.
En fait, le jeu n'est pas fluide.
Je suis inquiet pour eux parce que le jeu n'est pas fluide.
Là encore, dernière seconde.
Après, c'est le début de saison. Je pense quand tu reprends un peu le temps de bien se mettre dans le bain. Ce qui compte, c'est juste de prendre les points.
Monaco, ça fait 3 ans quand même qu'on voit rien.
Il y a un problème de recrutement. Moi, je trouve pas que le recrutement il est flamboyant cet été. Je suis pas sûr que tu te sois
renforcé.
Renforcé.
Fati à la place de Ben Seguir, je suis pas sûr non.
J'ai l'impression même que tu t'es affaibli pour pas dire parce que tu prends Pogba, ok, t'as des Ansu Fati. Pogba, c'est joli sur le papier.
Bah, c'est bien pour les pubs, quoi, pour les sponsors, ils sont archi contents. Mais sinon,
on les a pas vus jouer encore. On les a pas vus.
Je sais bien le problème.
Pogba devrait arriver. Moi, mon gros problème, c'est ok, 30 millions d'euros, mais Singo qui part à la dernier jour du mercato, ton
mec. En fait.
C'est pas possible.
Ouais, en fait, c'est
quand tu gardes Kerrer en titulaire, c'est juste pas possible en fait.
T'as des mecs qui flambaient l'an dernier comme Biret qui joue mais qui est plus dedans vraiment.
Très très fort.
Et Salisu qui fait son premier match tout simplement en tant que titulaire avec un CSC.
Ouais. Mais ouais, moi je pense que Monaco s'est affaibli et je pense que plus ça va aller avec la Ligue des Champions aussi qui vont jouer, plus on va voir Monaco dans le dur.
Moi aussi. Et puis pas l'effectif pour faire 3 matchs par semaine. Et puis défensivement c'est faible, ils ont pris des buts à tous les matchs. En jouant contre le Havre.
C'est des buts de casquette des fois. Déjà comme l'an dernier, c'est les mêmes erreurs.
Ils prennent des
manque de rigueur terrible. Je suis d'accord.
Et puis ils s'en sortent devant par des petits coups de dé ou la tête de
Ilenikela. Mais lui, j'attends de voir, lui, il peut les sauver une bonne partie de la saison.
Il peut leur faire du bien. Mais moi, en tout cas, Lille, je dirais que c'est en trompe-l'œil leur début de saison.
Mais autrefois, même Monaco, ils ne faisaient pas des grosses recrues. Monaco, ils sont toujours basés en fait sur le centre de formation.
Post-formation.
Voilà,
post-formation.
En fait, quand ça manquait, ils ramenaient 2-3 personnes pour rajouter au puzzle. Mais là, vraiment, comme vous dites, vraiment, il n'y a pas de bon recrutement. Et le centre de formation n'est plus productif comme il était à l'époque. Peut-être depuis la génération Mbappé, on n'a pas encore vu vraiment un talent éclore du côté, en fait, du côté de la principauté. Ça aussi, c'est.
Ouais, mais mine de rien, t'as mis de l'oseille, hein, parce que Balogun, il n'est pas venu gratuit.
Ouais, vraiment, ça recrute. Ouais.
On n'en parle pas parce que c'est Monaco, tout le monde s'en fout. Mais Balogun, il est venu pour 40 millions, ce qui en Ligue 1 est exceptionnel, exceptionnellement haut. Ils avaient recruté Mbolo à l'époque aussi pour, pour un petit billet. Ilenikela n'est pas venu gratuitement non plus.
Non, 20 millions d'euros à 17 ans.
À chaque fois, ils envoient quand même ils envoient les sous à Monaco. Donc,
Après, ils récupèrent bien, en tout cas. Ils font un...
Oui,
ouais,
ils arrivent. Voilà, voilà, c'était tout pour la Ligue 1. Hein. On va se revoir la semaine prochaine pour le reste de la Ligue 1. On va se faire une petite virgule avant d'entamer la Ligue 1. On va parler de la Ligue 1, hein, le championnat de Cheikh Kenza. On y revient juste après. L'Atlético de Madrid qui n'y arrive pas, hein. C'est compliqué, un début de saison très compliqué avec une petite victoire en 4 journées. Hein. En plus, c'était contre des équipes assez prenables en tout cas. Et on a pu voir Kylian Mbappé faire le 4 sur 4 comme son club avec le Real Madrid. Le dernier match, c'était un peu difficile à 10 contre 11. On a pu voir la Real Sociedad presser beaucoup à la fin, mais ils n'ont pas su revenir au score. Et on a pu voir aussi Barça qui sont largement imposés hier, 6-0, avec un doublé de Lewandowski, un doublé de Rafinha, deux entrants, hein, voilà, qui ont voulu se reposer un peu pour le match de ce mercredi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, chez Kenza, de ce début de saison en Ligue des Champions? Pour en Liga, pour l'instant, l'Atlético de Madrid, hein, qui ont très très mal commencé, qu'est-ce que tu verrais, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ce côté-là?
Oui, en fait, du côté de la Liga, on a vu en fait, Barcelone, vraiment, malgré que les cadres ont été repos, une équipe bis déjà, qui m'a surpris un peu. Voilà, on a vu que en fait, la Masia, il y a un travail qui a été là. Mais j'ai beaucoup vraiment aimé l'attitude de Rafinha et tout, de Lewandowski, même quand ils sont rentrés, ils ont apporté beaucoup plus. Les gamins, ils avaient déjà fait le taf dans le jeu, ils étaient meilleurs que Valence. Ils ont montré vraiment que, voilà, que même les yeux bandés, ils pouvaient se regarder, les yeux fermés plutôt. C'est-à-dire même les yeux sous le bandage, ils pouvaient jouer. Donc, on sent que vraiment, il y a une cohésion, il y a un collectif qui est né depuis l'année dernière. Ils sont sur cette même lancée. Donc, du coup, vraiment, ça promet, on aura des beaux classicos. Moi, cette saison, je les vois vraiment faire du mal en Ligue des Champions. Je les vois vraiment même, pourquoi pas aller même en finale et tout. Parce qu'en fait, ils ont l'effectif
le Barça.
Ouais, parce qu'ils ont l'effectif pour, parce que même l'année dernière, ils sautent grâce à l'Inter, mais c'est de justesse en fait. Donc, heureusement pour le PSG, on n'a pas eu le Barça, sinon ça aurait été une autre finale. Mais concernant le Real Madrid, je suis très impressionné par l'attitude de Kylian Mbappé. Là, c'est vraiment, en fait, c'est le fer de lance de l'équipe. C'est lui vraiment, en fait, il montre vraiment, il fait des pressings. Quand on regarde son premier budget, en fait, c'est un ballon que le défenseur envoie. Il faut déjà être attentif. Du coup, ben, c'est une opportunité, la saisie, la met. Ensuite, avec le rush qu'il nous fait sur le côté déjà, pour servir à Dagoula, ben, on ne peut que dire du bien. Je suis ébloui vraiment par sa prestation, par son attitude aussi. Et on est sur de bonnes rails, même sans Bellingham. Le Real retrouve des couleurs, ça promet. On va pas vraiment, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va laisser les choses écouler au fil de la saison. Mais je sens que ce Real de Madrid peut nous surprendre cette saison.
Real Madrid, chacun.
Oui. Et on sera pas très surpris, quoi qu'il arrive. S'il gagne la Liga ou même la Ligue des Champions, pas une surprise de ouf.
Bon, vraiment, de là où ils reviennent, cette, quand tu es habitué à gagner, quand tu fais des choses.
De là où ils reviennent.
Mais les supporters
du
Real,
c'est un
supporters du Real.
On dirait qu'il a fait 300 coupes d'Europe.
Non, c'est
on dirait qu'on parle de Sassuolo. On parle de
tu peux être déclassé. La Juve, le Milan AC, on connaît des déclassements. Le Real,
il a jamais été
champion. Quart de finale, gagné il y a 2 ans.
Déjà, c'est pas la même
culture. Reviens doucement.
Vinicius, Bellingham, Mbappé, Courtois.
Déjà, c'est pas le même prestige. C'est pas la même culture, en fait. En fait, à Madrid, c'est quoi en fait?
Tu peux pas la gagner tous les ans.
Non,
tu
en fait,
sais,
oui, je sais, tu peux pas la gagner tous les ans.
Vous êtes des enfants pourri gâtés.
Mais depuis les juvéniles, on t'apprend la culture de la gagne.
C'est-à-dire. Il n'y en a aucun qui est formé au club.
Donc justement, donc, en fait, justement, ouais, en fait, si tu gagnes, c'est pas une surprise.
Il n'y a aucun qui est formé au club.
Si, il y en a qui sont formés.
Ah, mais tu peux me parler de Cavaral, tu me parles de qui?
Cavaral, il a 36 ans, sinon tu
peux pas. Ouais, mais il est formé au club. Avant Cavaral.
Il va jouer combien de matchs cette saison? Non. Les leaders de l'équipe, ils ont tous été achetés cher ou pas cher à l'étranger. La culture de la juvénile, elle n'est pas dans le.
Mais est-ce que tu sais que cette culture, en fait, plus tu grandis, les anciens, ils inculquent toujours la même culture aux autres. Tu t'imagines qu'à chaque finale du Real Madrid, on envoyait toujours les anciens.
Quand il y avait Raoul, Guti et Hierro, je suis d'accord avec toi, pas aujourd'hui. Il faut... Par contre, c'est les meilleurs joueurs du monde qui ont déjà la culture de la gagne et qui la ramènent avec eux à Madrid, qui est le club le plus exigeant au monde. Donc en fait, ça fait sens.
Non, ça n'a rien à voir. Désolé de t'interrompre. Même si tu avais gagné autre part, quand tu arrives à Madrid, les compteurs sont à zéro en fait.
La culture de la gagne, ils ne vont pas la prendre à Madrid, ils l'ont appris ailleurs avant. Madrid, c'est pas le ciel au-dessus de la terre, c'est le plus grand club du monde. C'est le plus grand club du monde.
Madrid, c'est l'orgue du football mondial en fait. Quand on parle en termes de club, rien ne vaut, rien n'équivaut au Real de Madrid.
C'est le plus grand club du monde, mais doucement, ça reste un club.
Mais c'est paradoxal. Tu nous dis que c'est le plus grand club du monde et que c'est au-dessus de tout, rien n'équivaut. Mais d'un autre côté, tu nous dis s'il gagne, c'est une surprise. Pour moi, la surprise, c'est plus. Pour un club comme le Real Madrid, faire une saison comme l'an dernier.
Déjà fait une mauvaise saison à Madrid.
C'est ça la surprise.
Vu déjà fait une mauvaise saison, une saison comme on l'a fait, une saison blanche.
C'est plus ça la surprise que une saison blanche.
Quand tu reviens d'une saison blanche, s'il gagne en fait. Là aujourd'hui, je ne vois pas le Real ne fait même pas partie en fait. Et le Real ne fait même pas partie des favoris de la Ligue des Champions.
Mais arrête.
De la part de. Pour qui?
Qui a dit
ça? Mais ils sont dans les 4, ils sont dans les 3-4.
Il y a le PSG qui est là, il y a Liverpool qui est là. C'est vraiment
le seul club que tous les ans on peut mettre dans les favoris sans les avoir vus jouer avant. On sait qu'ils sont dans les favoris.
Et encore plus après une saison blanche.
Non, en fait.
Et en plus, quand tu vois qu'ils vont se remettre. Et quand tu vois Mbappé en pétard comme en début de saison, ils sont forcément favoris.
Vraiment, ça m'étonne venant de vous. Si c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le football, j'aurais dit oui. Mais venant de vous, en fait, vous connaissez la réalité du football.
On connaît Bellingham, on connaît Mbappé, on connaît Alexander Arnold gratuit, on connaît Gineux Sten.
Déjà, vous achetez le poisson dans l'eau. Pourtant, il faut attendre qu'ils soient au bord de l'eau. Vous avez pas déjà vu une équipe.
Il est toujours au bord de l'eau, le poisson. Ils sont trop forts. Ils ont tous les meilleurs joueurs du monde. De quoi tu me parles?
Déjà, vous voulez. Le plus important, on va pas trop parler. Je crois que cette équipe a les moyens pour faire mal.
J'aimerais revenir sur Mbappé parce qu'on l'a beaucoup critiqué l'année dernière. Et pour moi, à raison. Je reviens pas sur un seul mot que j'ai pu dire l'an dernier là-dessus. Mais là,
malgré
coup,
qu'il a fini avec le soulier d'or.
Ah non, statistiquement, j'ai
dans
rien
jeu,
dit.
Dans le jeu, ouais. Dans la production.
Mbappé, tu le mets pour moi dans n'importe quelle équipe du top 5 européen. Ouais, il va te mettre ses 30 buts. Il n'y a pas de, question.
Plus.
Moi, c'était dans l'apport au collectif et la réussite de l'équipe autour de lui. Et là, entre le Kylian de l'année dernière et celui de cette année, il y a quand même une grande différence pour moi, même dans ses courses. En fait, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas
tellement
vu.
Tellement tranchant.
Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi tranchant, aussi félin dans les courses, etc.
C'est il a envie, il fait mal. Comme tu disais, le but, là, ça passe sur le but de Gouler, ce qu'il leur fait avant.
C'est un rush,
ça fait longtemps.
Juste le jeu de corps. Le jeu de corps, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu si vif.
Et même dans les attitudes, j'ai l'impression qu'il en veut, il le montre, il emmène son équipe.
Et là, c'est vraiment son
équipe. Il s'affirme comme le leader.
L'année dernière, on se posait la question, est-ce que c'est l'équipe de Vinicius, l'équipe de Bellingham, l'équipe de Mbappé? On ne savait pas trop. Là, il n'y a plus de débat. C'est terminé. Vinicius, il est posé là-bas, il ne sait pas trop ce qu'il fait.
Bellingham, il a raté le début de saison.
Exactement.
Il a laissé Mbappé.
Mais là, c'est l'équipe de
Mbappé,
c'est terminé. Ça sera l'équipe de Mbappé tant qu'il est au club. C'est,
tant qu'il sera
c'est
à ce niveau-là, en tout cas, c'est sûr qu'il sera son équipe.
Et là, il a atteint un niveau exceptionnel. Quand l'année dernière, ça me parlait de Mbappé, Ballon d'Or, etc., je trouvais que c'était une hérésie par rapport à ce qu'on voyait entre la production.
Par rapport à ce qu'on connaissait de lui, en plus.
Exactement, ce qu'on connaissait de lui, ce qu'on avait en passif et quand tu allumais la télé, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, là, il atteint ce niveau-là de top joueur mondial, top 1-2 dans le monde, qui porte son équipe et qui peut l'amener à tous les trophées.
Merci Maxence de rétablir la vérité. Oh, je rigole.
On est tous d'accord là-dessus.
Ouais, là il a fait l'unanimité.
L'année dernière, tu nous disais qu'il voulait être Ballon d'Or chez Kenza. Quand il est bon, il est bon. Quand il est moins bon, mais on peut le dire aussi. On peut pas être fan tout le temps.
Déjà, moi, j'avais cette vision. Je savais qu'on
avait
déjà Mbappé en confiance. Mais c'est un monstre, c'est un astre en fait.
On est tous d'accord.
Merci. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du début de saison de l'Atlético de Madrid?
C'est bien que tu poses la question, parce que déjà, je m'attendais à un début de saison poussif. Quand tu as autant de recrues, que l'effectif, il a l'air, c'est un peu besoin d'être régénéré, mais que tu en fais autant, je trouve que c'était un peu illisible. En tout cas, pour moi, surtout qu'avec, il y a pas mal de joueurs de ballon qui ont été pris. Tu as enlevé des joueurs d'expérience qui avaient un peu des historiques du club.
Comme Depaul.
Je pense même pas à Depaul, je pensais à comment il s'appelle, l'ailier droit remplaçant l'Argentin qui est parti
Correa.
Aussi. André Correa qui est
le super sub.
Voilà, qui est le super sub depuis des années, mais qui les sort, qui met toujours sa dizaine de buts très importants sur une saison. Et tu vois, c'est pas forcément les joueurs les plus clinquants, mais je trouve qu'il y a pas mal de joueurs importants en collectif qui ont été envoyés enlevés de l'Atlético Madrid, pardon. Et donc, je pense que c'est une équipe qui va devoir monter en puissance petit à petit. Et je suis pas certain qu'ils arrivent à titiller le Barça et le Real cette année, qui vont les repartir sur des bases en fait. Je pense qu'on aura un bon Atlético, mais j'ai l'impression qu'on a un Barça qui a avec des joueurs, jeunes joueurs qui ont mûri par rapport à l'année dernière, et le Real qui a comblé un petit peu les trous, les faiblesses de l'an dernier. Donc j'ai l'impression que l'Atlético, en fait, il y a les deux locomotives en fait de la Liga sont tellement fortes.
Ouais, tu sens qu'il y a deux étages là différents de la fusée.
Et même si ça prend à l'Atlético. Je pense que ça prendra plusieurs semaines et ils auront déjà perdu trop de points. Et de toute façon, le Real et le Barça, pour moi, vont perdre très peu. Ils sont vraiment partis pour faire des belles saisons. Ils vont nous régaler.
Ils vont faire des championnats à 100 points comme à l'époque, là, avec, quand il y avait Messi, Ronaldo.
Peut-être ça un petit peu moins, mais ça va.
101, 98 ouais. Dans ces eaux-là. Et pour moi, le championnat de l'Atlético, c'est plus avec Villarreal, avec ce genre d'équipe.
Atlético Bilbao qui va faire une belle saison encore, qui joue bien. Ouais. Ouais,
après, ce qui est original dans le recrutement de l'Atlético, c'est qu'ils ont pris des joueurs aux antipodes du style Simeone.
C'était ce que je voulais dire aussi.
Du Almada, du Nico Gonzalez, des mecs qu'on n'imaginerait pas comme ça au départ jouer sous Simeone. Et donc peut-être que la greffe a du mal à prendre aussi.
Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fin de cycle Simeone?
Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps qu'on en parle.
Oui, il part depuis 2 ans, 3 ans, il est à bout en fait.
Tu vois que Joao Félix, il n'a jamais réussi, c'est un joueur créatif pour moi. Almada, que je connaissais pas avant qu'il vienne à Lyon, mais que j'ai beaucoup regardé à Lyon, j'aime beaucoup comme joueur. C'est vraiment un joueur créatif qui a besoin qu'il y ait des courses autour de lui pour savoir faire la bonne passe au bon moment, etc. Faire
ils ont pris Baena aussi, ils ont pris Baena de Villarreal.
Le terrain, ouais, bah, bien sûr. Et pour moi, je ne comprends pas en quoi cet effectif s'inscrit dans un projet de jeu à la Simeone.
D'accord.
Il va leur donner l'agnac comme d'habitude. Bon.
Après, on dit souvent que c'est
changé un peu ça.
Mais au final, s'ils font encore 3e et 8e de finale de Ligue des Champions, c'est encore une saison réussie pour l'Atlético.
Non, je ne crois pas.
Bah, ils ne visent pas le titre.
Ils ne peuvent pas être aussi exigeants qu'avec le Real et le Barça, vu des effectifs, vu des sommes en jeu.
Je crois pas.
C'est le Barça de Yamal, ça va être difficile.
Ouais, tu comprends. L'Atlético aussi, ces dernières années, ils en ont remporté en fait des titres.
Mais c'était une anomalie, ça, pour le coup.
Ils ont remporté deux titres.
Là, des soirées.
Ça, pour le coup, c'est pas normal, ça.
Là où on les attendait le moins, en fait. Mais quand tu prends goût à gagner à un moment donné, tu sais qu'au niveau du club, il y a une stabilité financière. On peut pas dézinguer, en fait, Simone, parce qu'il les envoie deux fois en finale de Ligue des Champions dans l'histoire. Il les fait gagner des titres et tout ça. Par là, en fait, le club revient sur l'échec mondial. Parce que l'Atlético, quand on parlait à l'époque, il y avait des clubs qui étaient devant eux en Espagne. Le Valencia, Séville, ils étaient sur un autre hog. L'Atlético, ils ramassaient que des miettes. Donc, du coup, déjà, ça, c'est bien. Mais pour un club vraiment qui essaie de grandir, voilà, qui essaie vraiment, en fait, tout club cherche aujourd'hui à toucher le Graal, comme des clubs comme Chelsea l'ont fait, le PSG. Donc, il faut aussi se servir aussi de ses concurrents. Par moment aussi, il faut, comme on dit, en fait, il faut apprendre, en fait, de plus fort que soi pour s'améliorer. Donc, à un moment donné, je crois qu'au niveau du club, ça va grincer les dents. Si les saisons s'enchaînent et qu'à un moment donné, il n'y a aucun titre qui est glané, ça va commencer à parler.
Mais l'objectif de football ingrat, début de saison, ça peut pas être d'être champion d'Espagne ou champion d'Europe, c'est impossible.
Ça peut être de titiller, mais en fait, le football ingrat
et de profiter d'une mauvaise saison d'un des deux là-haut. Mais ton objectif, c'est jamais ça. C'est une anomalie d'aller en finale des champions contre l'Atlético. C'est pas normal.
Non,
c'est qu'il y a eu.
Ils avaient une équipe formée.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, les limites, c'est que Simeone, il est trop important là-bas pour être mis en cause et que lui, il a pas l'air de vouloir changer sa philosophie. Donc pour moi, ça sera un petit peu ce qui les maintient à des niveaux élevés, mais qui sera un peu leur plafond de verre pour qu'ils puissent être encore plus forts.
Et puis les joueurs aussi. Enfin, quand tu regardes l'effectif de l'Atlético par rapport au top effectif, les 5-6 meilleurs effectifs d'Europe, ils ne sont pas invités. Ils n'ont pas leur place. Pour moi, ils ne sont pas dans les 7-8 meilleurs effectifs. Je préfère le Bayern.
Ils sont pas loin.
Je préfère le Bayern, je préfère City, je préfère le Real, je préfère le Barça, je préfère le
PSG. D'accord, mais ils sont pas loin.
Je préfère Liverpool, je préfère Arsenal.
Ils sont pas du top 10,
ils sont dans ce chapeau 2. Ils sont dans ce chapeau 2. Pour moi,
ils sont pas dans le chapeau 1.
Ils sont pas dans le chapeau 1. Donc leur place, elle n'est pas en finale de Ligue des Champions et au top de la Liga.
Merci Maxence. Merci. Abou, on t'a pas entendu beaucoup, en tout cas, parler de la Liga. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ce qui s'est dit autour de la table, du début de saison de l'Atlético de Madrid, du début de saison du Real et du Barça aussi, parce qu'on n'a pas entendu aussi le Barça qui ont fait un match nul, encore des problèmes d'arbitrage côté Liga, hein, aussi, on est obligé de le souligner.
Ouais, le litige et l'arbitrage, ça revient tout le temps.
Et du coup, le Barça qui ont 10 points, qui sont deuxième, il me semble.
C'est sa deuxième, derrière le Real Madrid, avec ce
match nul. Non, le Barça qui moi, je trouve, a un plutôt bon début de saison. Bon, il y a ce petit match nul qui vient un peu entacher la copie, mais j'ai l'impression qu'on est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière. Le seul problème du Barça à long terme, moi, je pense que ça va être Marcus Rashford. J'ai pas l'impression que Rashford, il va réussir à s'imposer à Barcelone après le football.
Je pense que c'est plus un super sub pour jouer les matchs qui comptent pas comme hier, que de s'imposer, parce qu'il ne pourra pas sauter Rafinha sauf s'il y a grosse blessure et encore.
Et on le voit, que j'ai même l'impression, sans vouloir faire insulte à Marcus Rashford et avec le talent qu'il nous a démontré lors des années précédentes, mais peut-être que le Barça, c'est peut-être un étage aussi un peu trop haut pour Marcus Rashford et pour le joueur qu'il est. En plus, on sait qu'avec les joueurs anglais, c'est difficile de s'acclimater hors Première Ligue. Donc non, moi je serais lui, j'aurais continué à Aston Villa. Je sais pas pourquoi il a pas
réenchaîner avec Aston Villa. Bon, c'est un peu dommage. L'Atletico, bah, comme je le disais, moi je pense qu'il faut changer en fait. Il faut que Simeone parte. Il y a un moment donné, c'est bien, on a vécu une belle histoire d'amour, c'était beau, c'était joli, on s'est fait plein de câlins, plein de papouilles. Mais là, on arrive à un stade où ça y est en fait, il faut que chacun
tout
se quitte.
Fait, en fait.
Faut que toi, tu ailles trouver une meilleure personne pour toi. Moi, je trouve une meilleure personne pour moi et on va sortir grandi de cette histoire. Mais bon, j'ai l'impression aussi qu'il a du mal un peu lui aussi à se visualiser ailleurs. Et j'ai l'impression que l'Atletico, pareil, a du mal à se visualiser
sans Simeone.
Sans lui, en fait, ouais, il y a des habitudes où il y a le truc de ouais, mais s'il part, comment on va faire? Alors
mais
que...
c'est dur hein, quand même avec n'importe quel coach de venir et faire ce qu'il a fait.
Oui,
autant
c'est...
d'années dans le top 4, 5.
Non, mais c'est vraiment comme une relation
en
de couple.
En gagnant
t'as
quelques
tout apporté,
titres,
donc
etc.
C'est difficile, mais il y a un
puis
moment
c'est
donné.
C'est pas un cadeau pour celui qui passe après.
Aussi.
C'est comme l'après Wenger, l'après Ferguson, à leur échelle. Hein. Mais l'après Simeone, le coach qui va arriver sur le banc de l'Atletico après tout ça.
Bah, je pense qu'il y aura beaucoup de.
Ouais, à mon avis, ça va dégager pas mal avant de trouver un mec stable.
Le bon gars.
Avant de trouver la stabilité, en fait.
Ouais.
En plus, Simeone, en fait, il est un peu à l'image de son mentor. Parce que quand on regarde avant Simeone, la période un peu glorieuse de l'Atletico, ils avaient Aragonés à la tête. Donc, c'était à peu près le même style de jeu. Voilà, un peu, tu vois, en fait, avec des coups d'éclat, mais une équipe ultra défensive. Donc, ça prouve que. Pas moi, je me demande, est-ce que c'est pas l'identité même de l'Atletico,
c'est-à-dire ouais,
l'équipe globale.
L'Atletico, ça a toujours été le deuxième club de la capitale,
ouais.
l'anti-star beau jeu
ouais,
du Real,
ça, voilà.
Le côté on est contre,
genre
on est les
club,
pauvres
en fait,
mecs
le
qui
club
sont,
de la ville et tout ça, des gens
le
défavorisés.
Club du peuple. Donc,
voilà, club.
Ouais,
donc ça a toujours été ça en fait.
Mais c'est une identité qui se change et, ça, et moi je pense que ça doit changer. Il y a plein de coachs sur le marché qui peuvent venir et
mais là, et vraiment, de mieux faire. Là vraiment, est-ce que t'es un nom dans les coulisses vraiment,
José Mourinho est sur
qui peut faire le boulot. Non, je le vois pas en fait entraîner le Real Madrid.
Le
Real Madrid est venu entraîner
j'adore
l'Atlético
Mourinho,
de Madrid, c'est compliqué.
Non, mais par exemple, tu pouvais aller chercher un gars comme celui qui est à l'Atalanta, Gasperini.
Bien sûr.
Un gars comme Gasperini, tu pouvais aller.
Gasperini,
ah,
il peut le faire.
Là, tu passes d'une canicule à des glaçons dans le dos. Là, c'est...
Ça change.
Donc, je crois
que oui, ou quelqu'un
moi,
comme
Simone
Inzaghi, ça pouvait le faire.
Et le Real Mbappé, vraiment extraordinaire. Hein. Mbappé, moi j'ai l'impression que c'est un nouvel homme. J'ai l'impression que c'est même pas le joueur qui a changé, c'est l'homme. Je sais pas
aussi.
Ce qu'il a fait.
Ouais,
cette
la
année.
Maturité.
La coupe de cheveux,
ouais.
Forcément.
Ouais, il a maintenant les cheveux.
Non, je pense qu'il y a aussi un plan plus global. Il sortait du PSG, il y a eu ces histoires de conflits, etc. Là, on voit la manière dont il s'ouvre. Rien qu'aux médias, tout simplement. L'année dernière, il y a un an pile, il refusait le rassemblement de l'équipe de France pour aller en vacances en Suède, tout ce qui s'ensuit, etc. Mais il était dans une posture où il ne parlait plus à personne en France. Les conférences de presse, il les zappait malgré le fait qu'il était capitaine. Donc, il ne voulait plus les faire, les conférences de presse en équipe de France. Là, on l'a vu revenir. Il a fait M6, il a fait l'équipe.
Il a fait Canal.
Il a fait Canal, il a fait un portrait. On sent qu'il est dans une politique d'ouverture et ce n'est pas plus mal. C'est je veux re-rassembler les gens en France autour de moi et montrer que je suis le leader et qu'on va suivre ma voie une année de Coupe du Monde. Je trouve ça
mais
bien, moi.
Étonnamment, ouais, je me demande si la victoire du PSG en Ligue des Champions ne lui a pas fait du bien
ça
aussi.
Ça serait génial.
Est-ce que ça l'a pas libéré de quelque chose?
Ouais, d'un point.
C'est
d'un
bon, maintenant, c'est fait. Ça y est, on va arrêter de m'associer à ces échecs consécutifs. On va arrêter de parler de moi. Ils ont gagné, ils vivent très bien sans moi. Et moi, maintenant, à moi aussi, d'écrire mon histoire avec le club de mon cœur.
Et peut-être aussi voir comment le PSG l'a gagné, en se disant « Ah ok, c'est peut-être ça la recette ». Je vais essayer de l'appliquer peut-être aussi à mon échelle et pas rester buté sur les principes que j'avais de « je défends jamais, tout ce qui se passe sans ballon, ça me regarde pas », etc., etc. On voit qu'il y a aussi une petite prise de conscience là-dessus, pourvu que ça dure.
Ouais, on a vu ça aussi.
Des grands kicks.
Merci. En tout cas, on rappelle le top 3 de la Liga. Hein. Premier, Real Madrid. Deuxième,
Liga,
FC
Liga,
Barcelone.
Liga, t'as
oui,
dit
de
Liga.
La Liga.
Ah oui, j'ai pas bien compris. Désolé.
Du coup, je disais le premier, le Real Madrid. Deuxième, FC Barcelone. Et troisième, Villarreal. On va juste passer à la suite. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions. Non, on va se faire une petite pause, s'il te plaît, Jason.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
On revient dans les locaux de Mon Paris FM. Il est 21h15. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé de la Ligue 1, de la Liga aussi. Et nous allons parler maintenant de la Ligue des Champions. Calendrier pour la Ligue des Champions, les grosses affiches. Juventus face à Dortmund, Real Madrid face à Marseille. On aura aussi Tottenham-Villarreal. On aura Bayern Munich face à Chelsea, PSG face à l'Atalanta, Liverpool face à Atlético de Madrid, Ajax-Inter. On aura Club Brugge face à Monaco, Manchester City face à Naples. Newcastle face à Barcelone. Et bien évidemment, on aura Francfort aussi face à Galatasaray. Qu'est-ce que vous pensez de ces affiches? Franchement, ils donnent envie. Hein. Pour vous, Maxence, quel est ton top 3 d'affiches que tu ne veux rien manquer? Vraiment, là. Ouh là 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 là.
Bah déjà, en 1, je ne vais pas être très...
Marseille?
Très original, mais je veux dire Marseille, même si ce n'est pas un match important pour la Ligue des Champions de l'OM, pour moi, la Ligue des Champions, elle ne commence pas maintenant. C'est du bonus, il faut le prendre comme ça. Si tu fais un résultat, c'est inespéré, c'est génial, tu capitalises dessus. Mais si tu perds, il ne faut surtout pas partir dans une panique de « Ah, c'est mort, tu n'as pas joué au Bernabeu tous les mardis, donc ça va aller ». Le deuxième match, je dirais Newcastle-Barça, parce que j'ai envie de voir le Barça un peu à cette épreuve-là. En plus, sans Yamal, j'ai envie de voir ce que ça n'augure rien pour la suite.
Mais... Ah, c'est confirmé?
De ce que j'ai entendu, après, je sais pas. Non, c'est peut-être pas confirmé.
Je pense pas que c'est confirmé, moi.
Mais en tout cas, même s'il est là, c'est un beau test. Newcastle, c'est quand même une équipe qui est physique, qui est dure.
Ouais, avec Isaac, etc., je t'aurais dit encore plus d'avantages là.
Mais regarde, ils ont embêté Liverpool en début de saison, très fort. Hein. Après, je dis pas qu'ils vont battre le Barça, mais c'est un premier test que le Barça n'a pas eu cette saison pour l'instant en Liga. Donc voilà. Et en troisième, je vais dire Monaco-Bruges, parce que pour moi, Monaco. Eux, ils commencent leur Ligue des Champions tout de suite avec un match qui est
à
leur portée et il ne faut pas se rater. Là, pour le coup, autant l'OM, je dis, voilà, tu perds à Madrid. Autant la Club Bruges, tu reçois Club Bruges en plus, il me semble.
Non, ils vont.
Ah, ils vont là-bas. Mais Club Bruges,
pour moi, ça se vaut. Monaco Club Bruges, ça se vaut.
Je suis d'accord. Mais du coup,
tu sors avec un match nul là-bas, je pense que c'est pas mal.
Mais il faut prendre quelque chose. Parce que si tu sors à 0 points après avoir joué Club Bruges et avec le calendrier qui t'attend, même si leur calendrier est assez correct, il me semble.
Oui, oui.
Mais pour moi, c'est tout de suite un match important pour eux où ils peuvent et ils doivent prendre au moins un point.
Merci, Maxence.
Et Yamal qui est, selon Marca, sera forfait et devrait faire son retour contre Etafé ce week-end.
Ok. Merci, Abou, pour cette info. Et toi, je suppose, Lucas, toi qui suis beaucoup la Serie A, je pense que Manchester City-Naples, ça te parle.
Ouais, totalement. Le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City, ça me parle. Mais aussi Juve Dortmund, qui me parle beaucoup. C'est une opposition de style. Et vraiment, c'est deux équipes qui ont beaucoup, beaucoup à se faire pardonner avec deux années qui ont été un petit peu décevantes à tous les niveaux, pour la Juve comme pour le Borussia Dortmund. Donc, c'est ce que je veux voir. Mais effectivement, le retour de... En plus, là, l'équipe...
Pas deux, quand même. Parce que deux...
Oui, c'est vrai, pardon.
Dortmund, c'était finale.
Ouais, finale l'année d'avant. Mais l'année dernière, c'était vraiment pour les deux équipes. Je veux dire, pour la Juve et pour le Dortmund, c'était vraiment l'année difficile. Ouais. Mais c'est vrai que le retour de De Bruyne à City, voir l'équipe que Naples est en train de construire aussi, avec Højlund et tout, c'est vachement ambitieux. Ça donne vraiment envie d'y croire. Donc, voir un City qui n'est pas totalement serein non plus. On l'a vu, malgré la victoire de ce week-end, on l'a vu sur les précédents résultats, que City, ce n'est pas encore le rouleau compresseur que ça devrait être.
Même ce week-end, hein, si Manchester United sont un peu plus chirurgical,
ils ont Roma dans les buts maintenant, notamment sur la frappe de Mbeumo. Il a montré pourquoi est-ce qu'on l'avait acheté.
Après, il y avait déjà 3-0, non?
Il y avait déjà 3-0 à ce moment-là.
Non, 2-2.
2-0.
Il y avait parce que cette action, ça relance le match complètement. Ouais.
Il y avait 2 à ce moment-là. Mais
Mbeumo, il la place bien.
Oui, mais après, United, ils ont eu beaucoup de ratés. Ils sont créés des occasions, mais ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout.
Ouais. City, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas un gardien qui fait des arrêts. C'est bien, ça va leur changer un peu la vie, je pense.
Ils ont un mur.
Je pense que Haaland, comment il a félicité Donnarumma sur l'arrêt, ça fait longtemps que.
Deux extrémités du terrain, t'as Haaland, Donnarumma. Normalement, tu voyages un petit peu.
Tu vois que sur certaines pressions qui lui ont été mises et des récupérations hautes de United, ces points faibles peuvent être peu à peu identifiés et exploités par les adversaires. Donc, il y aura un travail collectif à faire. Mais c'est vrai que sur la ligne. C'est Donnarumma qu'on a vu l'an dernier à
PSG. Et puis en ayant Haaland devant, tu te permets du jeu long aussi. S'il est en galère, il va pouvoir allonger et devant, il va faire
le premier ballon. Le premier ballon qu'on lui met dans les pieds à Donnarumma, c'est, je crois, il y a un pressing des joueurs de United. Il la décale sur son. Sur son côté gauche, tu vois qu'il n'est pas à l'aise avec les pieds.
Bien sûr.
Tu vois, même moi, je regarde, je dis, oh là là, frérot, lance ça loin.
Mais ça, on le sait.
C'est des choses qui vont se travailler, en fait.
Après, ils ont sacrifié un truc pour un truc.
Après, Pep Guardiola l'a dit. Il a dit, au pied, Ederson est le meilleur gardien au monde. Mais je sais pourquoi on a pris...
Ils ont sacrifié le jeu au pied pour...
Il faut choisir ton poison. Pendant 2 ans, tu as eu un gardien aussi. Dès qu'il y avait une frappe cadrée, c'était but quasiment.
Lucas,
évidemment, le match de Paris, j'y ferai attention aussi. Et dernier match qui a retenu mon attention, c'est le Bayern-Chelsea. Avec deux équipes qui sont amenées à monter en puissance. Bayern, je pense que là, vu le niveau de Michael Olise, etc., et de même tous les joueurs globalement, là, j'attends une grande saison du Bayern.
Chelsea, c'est
bizarre, mais ça monte en puissance. Franchement, ils ont acheté des prodiges de partout. Tu vois, même Jamie Gaitens de Dortmund, qu'on aurait pu voir un peu partout. Le fait qu'il ait choisi Estevao, qui est considéré comme peut-être le meilleur jeune brésilien là, depuis deux ans.
Pedro,
il a commencé à 16 ans. Pedro, pour moi, c'était l'attaquant à prendre cet été. même pour Arsenal, plus que Gyökeres d'ailleurs, dans le style de jeu. João Pedro, c'était la grosse cote à avoir quand tu voyais sa façon de jouer. Écoute, c'est Chelsea qui a mis le grappin dessus. Ils ont laissé partir et Madueke et Nicolas Jackson. Enfin, Jackson, ouais, c'est ça. Ah. Et du coup, il y a une. Jackson. Exactement, au Bayern. Et du coup, voilà, ça. En tout cas, pour moi, Chelsea, c'est une équipe qui, en plus, a gagné le Mondial des clubs, même si c'est un petit peu. Des circonstances particulières. Non, c'est une équipe qui est amenée à devoir hausser son niveau de jeu par rapport aux années précédentes. Et du coup, avec le Bayern, ce sera un premier test pour les deux et j'ai envie de voir ça aussi.
Merci, Lucas. Chekenza, toi, c'est quelle affiche qui te donne envie
Ouais, d'abord, je vais commencer par Marseille et Real Madrid. Après, comme il a dit, Bayern-Chelsea, en fait, c'est une affiche que je veux bien suivre. Parce qu'en fait, Chelsea, je les regarde beaucoup ces temps-ci, comme tu as dit, en fait. C'est un demi-teinte. Souvent, il y a des prestations qui sont très, très bonnes par moment, en fait. Je crois que le projet, en fait... de l'entraîneur en train de prendre forme. Parce qu'on l'a vu avec le Mondial des clubs, même s'ils n'ont pas eu en fait, la grosse saison des autres équipes, hein, les équipes qu'ils affrontent déjà, le PSG en finale, le PSG, ils étaient déjà émoussés, fatigués, tout
ça. Mais ils ont très bien exploité leurs faiblesses, voilà, ça on peut le dire.
Oui, ça je le sais en fait. Mais au vu vraiment de la saison de Chelsea, de la fin de saison dernière déjà avec le Mondial des clubs, ce qu'ils nous proposent, une équipe qui n'était pas attendue et qui soulève le Graal devant en fait, les équipes annoncées. Et là vraiment... En première ligue, on voit que c'est pas la même équipe de l'année dernière. On voit que vraiment, oui, il y a du jeu qui est produit et tout ça. Il y a des séquences qui sont belles. Et là, si on retrouve un Cole Palmer vraiment qui est libéré avec tout ça, Chelsea vraiment, je crois que cette équipe
Cole
peut
Palmer
nous surprendre.
Et je pense que derrière Enzo et Caicedo, ils ont l'air d'avoir complètement trouvé leur marque. Ils sont totalement complémentaires
en fait,
maintenant.
Et comme t'as dit,
ils vont faire du mal à beaucoup, beaucoup de milieux cette année, les deux.
Et comme tu as dit, en fait, cette équipe-là, elle est partie vraiment voilà, pour en fait. Comment dire, pour faire un peu le troupe fête, en fait, mélanger un peu la hiérarchie et tout ça. Mais je les vois vraiment faire une bonne saison. Comme en Première Ligue aussi, les 4 ne se jouent pas à partir des 4 journées. Il faut attendre la 38e journée pour sceller son sort. Donc, il y aura du pain sur la planche. Après aussi, il y a le match de Naples-Manchester City, en fait. Je vois vraiment, en fait, le Napoli, ils ont fait une saison remarquable l'année dernière, en fait. Le titre, il a gagné la dernière journée avec Scott McTominay. En fait, il y a une belle équipe qui est en train de se construire. Tout ça, il y a De Bruyne, vraiment. C'était un peu ce qui manquait un peu à leur jeu et tout ça. En fait, cette touche hyper créative et tout, en fait, qui peut faire des passes à n'importe quel moment, même quand le jeu est fermé, qui peut la décanter. Et on a un City, vraiment, qui est en train de se remettre. Et puis, on a un City bancal. Si je peux utiliser cette expression, le City, il est bancal. Le City, il est malade. Même si tu gagnes 3-0 face à Manchester United, déjà... Mais t'es pas encore en fait. Je crois que Naples a plus de chances de battre City. Si vraiment, oui, si
les choses. Carrément, tu vois Naples favori. Moi, je suis pas sûr.
Même ouais, si, je crois qu'ils peuvent les battre.
Les débuts de saison de joueurs comme Doku qui reprend lui aussi, il est
ouais,
en forme.
Vraiment, en fait, vu sur le premier but de City, ce qu'il fait là, en fait.
Haaland, il va continuer à mettre des buts à l'appel. On a l'impression que c'est facile,
ouais, ça,
mais il n'arrête pas.
Même l'année dernière, Haaland, il mettait les buts. Mais au final, ça a donné quoi en fait? C'est que le problème du City, c'est quoi? C'est que l'équipe est en reconstruction. Rodri, déjà, quand il revient d'une blessure. Comme Rodri, il n'a même pas 50% de ses capacités. On sait, en fait, Rodri, c'était le calme, le dépositeur, en fait. Lui qui savait gérer le tempo, lui qui faisait le relais entre la défense et l'attaque. Et c'était la sérénité absolue. Depuis les blessures de Rodri, City a commencé à être malade. Et ça a continué,
oui,
en fait.
Mais là, maintenant, ils ont fait des recrutements. On a notamment Reinders qui court pour deux. Donc, t'inquiète pas que les courses, il va les faire pour.
Il va les faire. Les coups, il va les faire, mais n'oublie pas qu'en face aussi, tu n'as pas des novices.
En fait,
en fait, tu as des joueurs vraiment qui ont de l'expérience et tout ça, et qui sont dans un collectif vraiment qui est en train d'être huilé. Et tu t'imagines que, en fait, déjà, en fait, ça serait un gros test quand on est champion d'Italie et tu croises vraiment Manchester City, déjà, qui l'a déjà gagné il y a quelques années, et en fait, qui fait partie des grands d'Europe maintenant. Donc, du coup, c'est un véritable test.
Après, Naples, on ne les a pas beaucoup vus à ces attitudes-là, ce qui est normal.
Pour
et
montrer
les équipes de Conte en Ligue des Champions.
C'est vrai,
attention.
Lui, il a une mauvaise histoire.
Par contre, j'adore Conte.
Moi, j'adore Conte. Si tu veux un titre dans ton championnat, tu l'amènes et tu la gagnes.
On peut parler de Conte, mais tu imagines qu'il y a deux ans en arrière, après Mourinho, il fait la finale contre City. Hein.
Qui ça?
Conte, c'est lui à l'Inter, la finale contre City.
Non, c'était déjà... C'était pas Inzaghi. Comment il s'appelle juste avant?
C'est pas Inzaghi, t'es sûr?
C'est Inzaghi qui fait les deux finales.
Je crois que c'est Inzaghi qui fait les deux finales.
Ça fait longtemps qu'il est parti.
Conte en Ligue des Champions, que ce soit à Chelsea, à la Juve, il a jamais réussi.
Non, t'as raison. Conte, il prend un titre avec l'Inter et après il part et les deux finales c'est Inzaghi effectivement.
Donc du coup Conte il était à Chelsea et l'année où il est à Chelsea en fait il joue les troupes faites parce qu'il la gagne en fait.
le dernier titre de Chelsea.
Non, mais ce qu'on peut pas enlever à compter, c'est que c'est un coach de championnat.
Ah, ouais, c'est un énorme coach de championnat.
Demain, tu le ramènes à Toulouse, il prend le championnat avec Toulouse. Oui.
Mais non, mais c'est vraiment un coach de championnat. En fait, c'est pas son fort. Je crois qu'il mise pas beaucoup là-dessus, en fait.
Non, c'est non, juste qu'il a c'est pas mal. Un travail de fond aussi. Avec des champions, ça va être confrontation aller-retour. C'est plus compliqué.
Il est moins à l'aise là-dessus.
Il est moins à l'aise sur les choix à faire en cours.
Dans les moments
match,
importants,
etc.
Effectivement.
Lui, c'est plus un travail au long cours où il va prendre de
dessus. Il imprègne un collectif très, très fort.
C'est un sélectionneur.
Pressing tout à l'heure.
Ouais, comme tu as dit, c'est un sélectionneur.
C'est un sélectionneur.
On va poursuivre. Hein. Franchement, Abou, toi, qu'est-ce que tu en as. Qu'est-ce que tu dirais de ces prochains matchs qui vont jouer demain et après-demain? Bah franchement, il y a quand même une équipe que personne n'a citée. Hein. Un match qui fait autant saliver, je pense. Un peu, quand même, on a parlé d'un club avant, Atlético de Madrid, Liverpool.
Oui, vraiment.
Liverpool, Atlético de Madrid, bah, je sais pas.
En soi, ça opposition ferait, des styles. Hein. En fait, en soi, ça ferait saliver si l'Atlético faisait un gros début de saison, etc.
Liverpool, mais, dans le jeu, je ne suis pas convaincu du tout non plus. Hein.
Ouais, mais je trouve que ça reste super
Salah qui
quand
fait
même,
un
Atlético.
Début de saison assez poussif.
Salah,
quand même.
C'est...
Je pense que Salah, plus son objectif, c'est cet hiver, la CAN.
Et la Coupe du
Monde.
Mais non, mais j'ai l'impression que comme Liverpool, ça reste quand même, j'ai l'impression, supérieur à l'Atlético. Ah. Je sais pas si Isaac il sera prêt, je pense pas. Je pense pas qu'il sera prêt pour ce match-là.
Ah, ils ont ce boss-là qui fait tout en ce moment.
Gars, ouais, après, ils ont étiqué et qu'étiqué. Étiqueté ou quoi, il est non compliqué.
Mais non, moi, c'est pas une affiche qui me. Celle qui me hype vraiment, ouais, c'est City-Naples. En vrai, moi, c'est vraiment City-Naples. J'ai envie de voir ce que les hommes d'Antonio Conte va donner. Et je trouve qu'en fait, ils ont une vulgarité, mais qu'ils ont un bête d'effectif, pour pas dire de vulgarité. Non, mais même sur le banc, quoi. T'as des solutions comme David Neres, Noah Lang. T'as un vrai bel effectif. Lorenzo Lucas, que j'adore Lorenzo Lucas. Pour les joueurs de Football Manager, vraiment, Lorenzo Lucas, c'est très fort.
Il est très bon.
Dans Football Manager. Mais non, moi, c'est vraiment le match qui me hype le plus. Après, forcément, il y a Real Marseille, mais pour des raisons personnelles. Et je trouve qu'on n'a pas aussi assez parlé de PSG Atalanta. Je trouve que c'est un match qui va être intéressant. Paris qui arrive sans Désiré Doué. Beraldo,
blessé,
remis ou pas
blessé
remis
aussi,
pas remis.
Varadkelia, lui, il est entre parenthèses.
Ouais, lui, c'est une entaille.
Vara, ça va Dembélé, aller, mais c'est pas longue durée.
Kanguilé aussi, non.
Je crois que
sur ce match-là, il doit laisser souffler ses cadres. Fais confiance, vraiment.
Pas le choix, là.
Ouais, en même temps, l'Atalanta, c'est une équipe qui est en rodage.
T'as beaucoup d'équipes, t'as beaucoup de bonnes équipes à jouer. Je pense que t'es obligé de prendre au sérieux l'Atalanta. En plus, tu joues à domicile.
Ouais. Et le parcours, encore une fois, le tirage du PSG, encore une fois, c'est un des plus compliqués qui soit. Après, t'as toutes les grosses équipes de chaque chapeau.
Après, pour moi, le tirage du PSG, certes, il est compliqué, mais les gars, Atalanta, c'est aussi faible. C'est une équipe qui est en reconstruction. Ils n'ont pas Lookman.
Bah, leur première victoire,
c'est compliqué. Derrière, tu vas jouer Leverkusen. C'est que des équipes qui sont.
Leverkusen, c'est vrai que.
Leverkusen, changement de coach au bout de deux matchs. Des joueurs qui sont partis. C'est. Franchement,
ils ont été à tout va.
Même le Sporting, etc., c'est des bonnes équipes, rien à dire. Mais quand tu es le PSG avec ton effectif, tes certitudes que tu as acquises l'année dernière. Tu peux pas être en
tout,
panique sur un match contre le Sporting, l'Atalanta, sachant que tu peux te permettre une, deux, trois défaites, deux passages comme ça. Tu auras le Barça qui va être très dur, c'est là-bas, etc. Ça va être le choc. Et après, pour moi, c'est des matchs difficiles, mais quand même très abordables pour le PSG.
Il y a le Bayern pour Paris aussi, non?
Ouais, il y a le Bayern.
Il y a deux matchs énormes.
Mais après, c'est pas des matchs qui arrivent tôt. C'est pas des matchs qui arrivent tôt, en fait, dans le calendrier. Donc du coup, avant ça, vraiment, tous les quatre seront remis. Et donc,
et puis
voilà.
Ces équipes-là aussi, elles vont avoir les mêmes enjeux. T'as Yamal qui est déjà blessé, t'as Rafinha qui sort d'un aller-retour Brésil encore. Ouais. Au Bayern, t'as Moussiala qui s'est fait
pendant cette fameuse Coupe du Monde des clubs.
Je pense que là, jusqu'à janvier-février, dans tous les gros clubs, ça va tomber comme des mouches parce que les mecs qui sont pas faits.
Ça va gérer les effectifs. On sait que Luis Enrique a été loué pour ça l'an dernier parce qu'il le faisait très bien et les coachs vont devoir s'inspirer de lui.
Les gars, ils vont commencer à penser.
On parlait de Naples, ce qui a changé par rapport aux années précédentes. Très très gros banc de touche. Hein. Même sur le banc, il y a du monde.
Profondeur.
Il
y a une énorme profondeur de banc.
Il faut pas oublier que Lukaku est blessé.
Les postes, on voit doubler, même tripler.
À Paris, c'est pas forcément le cas. Tu vois, on parlait de Paris là. À Paris, c'est Brahim Mbaye qui va jouer, qui va probablement être titulaire.
C'est l'erreur de cet été du PSG, c'est d'avoir sous-estimé ce qui s'est passé l'année dernière.
Et
le fait que ce soit
un
vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Je pense pas qu'ils aient sous-estimé, mais je pense que c'est vraiment dans le caractère de Luis Enrique. Il veut pas avoir un groupe élargi.
Oui, mais
c'est un gars qui veut se contenter d'un
match. L'année dernière, il a eu énormément de chance là-dessus. Parce qu'il a eu aucun blessé. Tu joues Arsenal en demi, Arsenal, ils arrivent avec 6 titulaires en moins. Et toi, t'as ton 11 tout le long de la compétition.
Mais j'ai
l'impression que t'arrives avec ton 11 en pleine bourre, même t'es 14 parce que Barcola était en pleine forme, etc.
Oui, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui ne s'est pas géré. Avoir un effectif trop large pour lui, c'est... Il y a des coachs comme ça qui préfèrent jouer. Mais après, ça, dans le football d'aujourd'hui, c'est compliqué.
Mais j'espère que c'est pas la normalité, qu'il a pas cru que c'était la normalité d'arriver en Ligue des Champions.
Après, il disait que dans tous les cas, il veut doubler les postes. Hein. S'il pouvait les doubler, les tripler un peu partout, c'est ce qu'il disait. Du coup, il veut avoir le choix, Lucien Riquet. On comprenait pas ses choix en début de saison aussi. Hein. Il mettait toujours des Lee Kang-in, la persistait avec Lee Kang-in en faux neuf. Ouais. On comprenait pas pourquoi. Il a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, hein, à juste titre, parce qu'il était critiqué, mais à juste titre.
Mais je pense qu'il retrouve. Je pense qu'il veut doubler ses postes, mais il veut pas des joueurs d'un niveau similaire. Lui, je pense qu'il veut doubler avec des joueurs qui sont inférieurs à ceux qu'il a.
Voilà, un dessin,
pas
un avoir
c'est pour ça qu'ils peuvent les concurrents.
Ouais, moi, je pense parce que les joueurs comme ça, ils ont tous mis à la porte aussi. Colomwani, Soler, Asensio, et même Nordi Mukiele, qui aurait été, en termes de profil, super utile, qui peut jouer arrière-droit et un vrai bon joueur, mais il l'aime vraiment pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est contestable, cette façon de faire, mais je rejoins Maxence quand même. Il y a une dynamique au PSG qui va au-delà des hommes. Et on a l'impression quand même l'équipe, elle est quand même beaucoup plus sereine que les années précédentes. Dans l'avant-match, la façon dont ils vont les aborder, on a quand même l'impression que c'est une équipe qui devrait se qualifier, même avec les blessés, les aléas, sans trop de problèmes et sans avoir la sueur comme l'an dernier.
Et puis même si tu es en 16e parce que tu finis 12e ou 13e de la Ligue, ce qui est possible, il n'y a rien qui est
impossible.
Tu as battu
la meilleure équipe du monde l'an dernier, donc tu vas avec confiance.
Puis derrière, tu vas croiser avec le 20e de la poule. Ça va être l'OM, ça va être Sporting, ça va être Olympiakos. En aller-retour, ça devrait le faire. Je pense que voilà,
10-0 Brest sur le cumulé, c'est ça.
10-0, donc voilà. Ceux qui présentent ça comme un truc de fou, il faut faire un 16e.
C'est des matchs en plus sur une saison très longue quand même.
Ouais, c'est des matchs en plus, mais en fait, mais c'est des matchs qui
redonnent confiance. Et ils font la maille hein, contre Olympiakos.
C'est des matchs qui redonnent confiance et c'est des matchs aussi en fait qui permettent aussi en fait de voir certaines failles et de mieux appréhender aussi les grotesques qui arrivent en fait. Comme il a dit, Luis Enrique, il a inculqué à cette équipe la sérénité et c'est la base en fait. Quand on est serein et qu'on est en confiance, on panique devant une situation. Mais en fait, ça c'est un joueur libéré. Déjà, et on sent vraiment que ces cadres, ils peuvent même aller à la guerre pour Luis Enrique.
Être serein, c'est une chose, mais après, si vous êtes tous blessés, même si vous êtes serein, mais ça va être compliqué. Même le coach, il se blesse maintenant.
Oui, il y a aussi, en fait, quand on parle de ça aussi, il y a aussi l'hygiène de vie, les préparations physiques.
Non, là, je pense pas que ce soit une question d'hygiène de vie.
C'est
une accumulation de matchs. Il n'y a pas eu de repos.
Et t'as que 2 semaines de vacances, c'est pas normal.
Là, Mbappé, il en a parlé, il a dit
qu'ils
n'ont pas programmé pour jouer 60 matchs.
Attention, tu vas chauffer le cœur sur Mbappé qui parle des
blessures. Bah oui, il a dit qu'ils sont pas programmés pour jouer 60 matchs.
Sauf qu'il a dit qu'il ne devait pas y avoir moins de matchs, il devait juste y avoir plus de repos. On m'expliquera comment c'est possible, mais bon, on ne va pas revenir sur la déclaration de Mbappé.
Merci en tout cas pour les matchs de Ligue des Champions. Je vais quand même vous demander, j'aime bien pour les premières émissions, vous demander votre favori pour chaque championnat et pour la Ligue des Champions aussi.
La LDC
On commence par quoi?
On peut commencer par la Ligue 1, allez.
La Liga?
La Ligue 1.
Ligue 1.
Paris.
Paris.
Marseille.
J'ai du mal à le dire, j'étais sûr.
Paris.
Non, parce qu'on espère. Hein. C'est un pronostic.
C'est un pronostic. Non,
c'est là où tu mets tout ton argent. Tu mets la maison, les enfants.
La Liga.
Real. Si, Real, je pense.
Très difficile. Je vais dire, allez, le Real aussi.
Ouais, en fait, comme l'a dit, ça serait un mano à mano.
Direct.
Mais je crois que le Real de Madrid.
Voilà, merci. Le Real Madrid. Merci.
Real Madrid.
Ah ouais.
Merci.
Je pensais que donc, l'unanimité, Real Madrid. Pour la première ligue.
Ah.
Allez, surprise, Arsenal.
Liverpool.
Ouais, Liverpool, je les vois bien.
Manchester City. Moi, c'est maudit, Arsenal.
Et Liverpool, j'y crois pas du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont. Virts, d'ailleurs, ils passent tellement entre les gouttes. Mais...
Ils ont déjà 6 points de plus hein, sans qu'Alexander Isak.
Ouais, mais t'as vu la main.
Sans qu'Alexander Isak.
La main qu'ils ont, la main, elle est à peine à la dernière minute. Franchement, le match qu'ils ont fait ce week-end. Et ça rejoint
mais c'est des matchs comme ça,
contre Newcastle. Ils se font dominer tout le match, que ce soit à 10 contre 11, même à 11 contre 10, ils ont été dominés. Ils ont
mais c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner, c'est ça le problème.
Championnat incroyable, le jeune de 16 ans qui rentre, qui met un but en plus, qui est magnifique avec Szoboszlai qui laisse passer le ballon derrière lui, c'est incroyable.
Là, il fait encore une super entrée là, il rentre que 5 minutes ce week-end, mais il est trop fort.
Il a vu qu'ils avaient un milieu de terrain supplémentaire, qu'il fallait regagner sa place, il est en pétard, il est trop fort, il fait tout parfaitement, même quand il joue latéral droit, il est trop fort, mais je pense que Liverpool il va avoir plus de mal cette année. Même avec Isak, c'était la pièce manquante. Je demande d'avoir Liverpool, je suis pas convaincu par rapport à ce qu'on montre sur le terrain.
Je demande d'avoir la gestion et Kitike et Isak aussi. Je sais pas pourquoi ils se sont.
Et Kitike va aller sur le banc et puis c'est tout.
Ah, puis au passage, le début de première ligue est
hyper. Il jouera à gauche aussi un petit peu Kitike.
Moi j'en aurais pris qu'un des deux.
Le début de première ligue est hyper décevant, je trouve. les grosses affiches, etc.
Bah, moi, par le Newcastle,
le Arsenal United était, était compliqué. Franchement, moi, je suis.
Arsenal a géré après, il voulait.
Souvent,
les 3
t'es hypé avant d'aller mettre à télé et au bout de 20 minutes, tu te dis.
Après, je pense qu'il faut regarder les matchs des milieux de terrain.
Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Ça joue.
Tu retrouves la bonne première ligue.
Le Aston Villa West Ham.
Parce qu'ils ont tellement tous des gros. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, vu qu'ils captent tous les meilleurs joueurs, même les équipes, entre guillemets, du ventre mou de première ligue, ils ont des effectifs.
Ah bah,
au moins 4 ou 5 talents qui sont.
Comment Sunderland a investi cette
année. Ah ouais, j'ai vu.
Régis Lebry là-bas.
C'est plus fort que le top de Ligue 1. Hein.
C'est sûr. Du coup, moi, Arsenal, ouais.
Merci.
Du coup, on n'a pas fait la Serie A.
Serie A, Ligue des Champions.
Oui, on y arrive. C'est pressé. Hein. Serie A, bah vas-y, Abou, je t'en prie. Allez.
Serie A Naples. Moi, je remets une pièce sur Naples cette saison. Ouais, je pense. J'espère. Je pense et j'espère.
Moi, je pense qu'une fois que la décision sera passée, ce sera l'Inter qui va remporter le championnat.
Ils ont déjà 6 points de retard.
Ouais, c'est le début de saison. Ça sera rapide.
Ouais, je vois la Juventus, pourquoi pas.
Mais la Juve aussi. J'adore Igor Tudor.
La vieille dame.
Vraiment, coach kiffant. Hein. Ah, ouais. Je regrette qu'il soit pas resté plus longtemps à l'Olympique de Marseille.
Bah, c'est celui avec qui on a le plus vibré sur 10 dernières années.
Je pense, après la Serie A,
Bundes.
La Bundesliga.
Ouais, bon.
On est tous d'accord, le Bayern a gagné.
Non, voilà, Stuttgart.
Non,
allez, moi j'ajoute un truc, le Bayern sans perdre un match.
Ah.
Waouh.
C'est pas, franchement, c'est
le
possible.
Record des
surtout avec le retour de Moussiala en janvier.
Il y a une telle marge. Et j'ai l'impression que le reste de la Bundesliga, ça affaiblit aussi.
Leverkusen,
Leipzig.
En plus, ils ont fait des.
C'est plus faible que les autres.
Leverkusen a fait des très très gros, a mis des très très grosses sommes sur des joueurs dont je suis pas convaincu. Genre Kwanzaa de Liverpool, c'est un bon jeune, mais 30 millions et pareil, ta défense sur ce joueur-là, je trouve que c'est risqué. Incapié qui part alors qu'il n'a pas besoin de l'Arsenal. Bref, effectivement, derrière le Bayern, c'est un peu. Il y a un gap de niveau qui est énorme entre le Bayern et ses concurrents.
Donc, on a fait la Liga.
On a fait le 5 grands championnats.
Il reste avec des champions.
On a fait. Ok. Pour la Ligue des Champions, chez Kenza, quel est ton favori?
Real Madrid.
Merci.
Ah, j'aurais posé 1000 euros, c'était une cote à 1,10 qu'il allait dire ça.
Maxence?
J'hésite. On peut en citer deux ou pas?
Un seul.
Je vais dire le Barça.
Lucas?
Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va conserver son titre.
Le back-to-back.
Le back-to-back.
Paris Saint-Germain. Ah bon.
Pour
la Ligue 1, non, mais pour la Ligue des Champions.
Ah, non, parce que la Ligue 1, en fait, c'est pour nous cette année. Mais la Ligue des Champions, je pense que ouais, c'est fort le PSG. Il faut qu'il soit épargné par les blessures.
Ouais, mais Doué, même Doué,
qu'il réajuste tout ça en janvier.
Doué qui a eu beaucoup à gérer. Je pense que les 3 semaines d'absence, elles vont lui faire du bien. Il était un peu en train de surjouer. Je pense qu'il va revenir en pétard. C'est un joueur incroyable. J'ai hâte de les voir tous à 100%. J'adore.
Mais moi, je pense que le PSG peut pas faire mieux que ce qu'il a fait l'an dernier. Par contre, tous les autres sont plus forts.
Moi, je pense que si.
Le Real est plus fort.
Moi, je pense que Paris fera mieux.
Je pense
que le
Barça sera plus fort.
Je pense que Paris fera mieux. Tu vois, si Aston Villa, le match retour, c'est presque. Quand tu regardes le scénario, Paris, c'est vraiment le type de match qu'ils perdent à chaque fois. Ils commencent bien, ils se font remonter. Il y a un quart d'heure de panique. Ça finit par Willem Pacho, là, qui a une super cuisse qui sort le ballon. Et pour moi, en fait, ça aurait à très peu de choses, ça sortait là. Et moi, pour moi, ce genre de moment.
Même Liverpool, à très peu de choses, tu sors.
Sauf que Liverpool, c'est ultra serré. Il n'y a pas un instant où tu vois que c'est pas intense. Là, c'est la première fois contre Aston Villa que Paris déjouait, comme il l'a fait les années précédentes, comme les années quand ils perdent contre United, contre Real Madrid, etc. etc. Mais je pense que Paris va progresser dans sa gestion des événements. Gestion des événements contraires. Et c'est en ça que je pense qu'ils vont être très, très dangereux. Ça veut dire qu'une fois que janvier sera passé, qu'ils vont tous être à fond, je pense que Paris a beaucoup de certitudes et qu'ils n'auront plus certains doutes collectifs qui les ont beaucoup embêtés par le passé. Et j'ai l'impression que, ouais, on va avoir des affrontements qui vont être magnifiques.
C'est vrai aussi. Après, tu as une part d'irrationnel sur un gain de Ligue des Champions. Tu vas avoir le mec qui se blesse au mauvais moment et tout. Et l'année dernière, j'ai l'impression que les planètes se sont quand même bien alignées. Et tu peux, cette année, aller face à des déconvenus. Si tu arrives sur une demi face à Arsenal avec 6 absents dans ton rôle titulaire, c'est quand même pas la même
Neves,
chose.
Il est parti pour bouffer tout le monde cette année.
Ouais, ouais. Mais,
parce que les joueurs vont progresser aussi. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à bien Paris. Sûr. Et j'ai l'impression que.
Mais pour moi, tout peut changer. Tu vois, là, on fait des pronostics, etc. Mais si. Mbappé dans 3 mois il se casse la cheville, ben nos pronostics c'est plus valable. Si Yamal il lui arrive une galère, c'est pareil. Là le PSG, enfin, donc pour moi tout s'est bien goupillé l'an dernier et ça va être très très dur de
réussir. Tu vois, Paris est moins dépendant d'une individualité que les deux clubs que tu as cités.
C'est vrai aussi.
Parce que Barcola, quand tu vois que c'est le 12e homme l'an dernier, il a début de saison qu'il fait encore, ça laisse rêveur.
Non, c'est vrai aussi.
On va enchaîner avec la Première Ligue, comme vous êtes déjà au cœur de la Première Ligue. On va parler de Liverpool, hein. un mercato XXXL, vraiment, c'est le cas de le dire. Hein. Wirtz, plus de 250 millions investis hein, avec l'étiquité. Isaac,
c'est 400, plus. Je crois. Mais plus, ouais, après, ils ont beaucoup après, ils ouais. mal vendu, mais sinon,
ouais, ils ont bien vendu, ouais. Cas, paradoxalement, ouais,
ils ont bien vendu. Ils ont bien vendu Luis Diaz, le départ
Quansar,
de Luis
que
Diaz,
je disais, ouais.
Ouais, Quansar, etc. Mais en tout cas, ils ont acheté, en tout cas. Voilà, Alexander Isaac, c'était difficile. Hein. On ne savait pas s'il allait venir ou pas. Avec Newcastle qui essayait de le bloquer, c'était très compliqué. Finalement, c'est bon, c'est fait.
On parce a que Newcastle a mis 90 oui. millions sur Walter Mates, ce qui est assez fou quand même. Pour un joueur qui a fait une bonne saison, qu'on connaissait très peu avant l'Euro Espoir, c'est fou.
Mais les ouais, Anglais, c'est n'importe quoi. Là, t'as des... Cet été, tu as eu des 50, 60 millions sur
des
mecs.
Sur des no-name. Franchement, pour les joueurs, hein, sur des no-name.
Il y en a, si je les ai vus jouer 5 fois, c'est maximum. Et je pense quand même, regarder pas mal de matchs tous les week-ends. Non,
je comprends ce que je veux dire.
Il y en a, il y a des 50 millions sur des mecs. Tu te dis, mais c'est pas possible.
Mais c'est le football business en fait, et tout vraiment. Tout part vraiment dans la démesure. C'est-à-dire
mais elle est déjà là, joueur, la Super League, c'est celle-là.
On voit un jeune joueur, vraiment, deux matchs ou trois matchs, vraiment, ils sont prêts à mettre le paquet. Hein.
Ouais, en tout cas, qu'on se considère la Première Ligue, moi, je peux commencer par ça. J'étais assez déçu par l'attitude de Liverpool sur son match. Je trouve qu'ils ont vraiment... Il y a peu de mouvement et je trouve que Florian Wirtz, pardon, passe beaucoup au travers des gouttes. Je trouve qu'il est il a du mal hein. Et après on sait que physiquement il peut y avoir un temps d'adaptation, même dans ses passes, dans ses dribbles. Je ne retrouve pas le Florian Wirtz magique de Leverkusen et de la sélection allemande aussi. Donc et en plus j'ai l'impression que Wirtz c'est un peu le caprice de Liverpool. Ça veut dire que autant Isaac, je comprends à quel point il pouvait être important dans le schéma que veut instaurer Arne Slot. Par contre, quand tu vois l'effectif qu'ils ont, je trouve que Wirtz c'est un peu un petit péché d'orgueil pour avoir une équipe encore plus forte. Et lâcher 130 millions sur ce mec-là, c'est assez,
ouais, pour
c'est
le
assez
coup,
risqué.
Ce que tu dis sur Isaac, je suis d'accord, mais ça vaut pas vu que tu prends Ekitike. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, la politique sportive. Tu prends 2-9.
Pour moi, c'est
Ekitike
qui doit aller à Newcastle et qui ne doit jamais
exactement.
Mettre le pied à Liverpool.
Ekitike, il doit remplacer Isaac à
Liverpool. Pour moi, c'était la logique. C'était la logique.
C'est
bon, ouais.
Même type en fait. De joueur, un tout petit peu moins fort, avec
ouais, tout.
Un tout petit peu moins de référence, on va dire. Donc,
non, pour moi, c'est pas. Enfin, ils ont le même profil, on va dire.
Ouais, même
mais en
profil.
Fait, tu vois, Ekitike, il est vachement brouillon dans son jeu. Des fois, ça passe, mais t'as l'impression que c'est fait un peu à l'arrache.
Ouais.
Isaac, il maîtrise son karaté, comme on dit. Hein.
Ouais,
Isaac,
mais Ekitike, moi, contrôle, je trouve qu'il est sous-côté. Hein. Ekitike,
moi, je le trouve trop irrégulier. Je trouve que des fois, il va te faire un contrôle parfait. Et après, des fois, il va faire le dribble en trop, la passe qui n'a rien à voir, etc.
Mais en tout cas, les deux peuvent pas être dans le même effectif. Pour moi, ça n'a aucun sens.
Pour moi, Ekitike va jouer ailier gauche beaucoup cette saison.
Ouais, bah là, tu vois, ça me
plaît. Et pour toi, il va sauter Gakpo?
Ça non, pas le sauter, mais non. Il va jouer quand Gakpo devra être mis au repos ou qui sera moins bon. Et Ekitike jouera à gauche.
Il sera dans la rotation.
Il va aussi remplacer voilà, Isaac. Pour moi, il va être polyvalent. Et
pour toi, le 4-4-2, non.
Ah non, pour moi, non. Non.
Et
même Gakpo, je trouve sous-côté dans l'apport collectif qu'il a. Comme c'est pas le mec qui le plus régulier, qui fait pas des dribbles très spectaculaires, Gakpo, il est souvent décrié. Mais je trouve qu'il fait beaucoup de choix judicieux. C'est un bon passeur aussi. C'est un joueur assez complet.
Il marque des buts importants.
Il marque des buts importants.
Et on a un autre aussi qui est sous-côté, qui marquait des buts importants. C'est Diogo Jota,
énormément de mais lui, il était plus dans la retransmission qu'un titulaire.
Ouais,
en fait.
Mais c'est un joueur qui
était titulaire. Ouais, c'est très bon d'avoir ces
joueurs. Il se
blessait
beaucoup, mais quand il était titulaire, quand il était sur deux
jambes, il se blessait pas beaucoup. C'est après quand il a commencé à se blesser, c'est là qu'il était dans la rotation dure.
Pour moi, c'est un joueur essentiel, Jota, qui faisait. Les joueurs intelligents qui savent jouer au ballon, qui savent jouer avec leur partenaire, ils seront toujours pressés dans
et
un effectif.
C'est chirurgical, il va rentrer, il reste 10 minutes, il sait qu'il va en avoir une. Il faut la mettre
il
au
a l'intelligence
et il va
être placé au bon endroit. Pour moi, Jota, effectivement, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pris et Ekitike et Isaac. Parce qu'ils voulaient remplacer évidemment Jota et Luis Diaz qui sont partis tous les deux.
Ouais, mais j'aurais préféré prendre. Du coup,
un vrai
Isaac et un vrai ailier.
Je comprends.
Après, c'est qui l'ailier qui voulait? C'est eux ou Bayern qui étaient sur Barcola?
Les deux, il y a eu les rumeurs.
Après, Rodrigo
ça aurait été le joueur à prendre. Ouais,
mais
c'est très très cher.
Mais bon,
encore,
si
c'est un
tu mets 90 sur Ekitike, tu peux peut-être mettre 90 ou 100 sur un top.
Tu pouvais mettre 100 sur Rodrigo.
Et 100, c'est sûr que ça aurait marché
à gauche, là où il est à l'aise en plus.
Et pour revenir sur Wirtz rapidement, moi je suis pas inquiet pour Wirtz. Pour moi, c'est vraiment un top joueur. Mais c'est qu'il sort d'un championnat qui est autoroute. Bundesliga, c'est l'autoroute. T'as le ballon, t'as le temps de te retourner, boire un café,
commander
Uber Eats pour le soir. Et puis après, tu vas voir
si tu
rentres dans la surface ou pas. Là, il arrive en première ligue. Il a à peine le temps de faire son contrôle. T'as 4 mecs qui lui tombent dessus. Faut juste qu'il se.
Mais même dans les moments où il a du temps, où il mène des contre-attaques, etc., je le trouve pas souvent judicieux. Donc c'est pour ça que, de ce que j'ai vu de Liverpool, je dis que, et notamment le match de ce week-end, je suis pas convaincu encore que c'est l'équipe de l'an dernier qui vont écraser le championnat, voire même qui vont le gagner.
Merci Lucas. En tout cas, on va rappeler les résultats. Manchester City qui se sont imposés 3-0 face à United. Burnley face à Liverpool. Hein. Burnley qui ont voulu piéger les Reds, qui sont sortis de ce pétrin grâce à un but de Mohamed Salah sur penalty. Brentford-Chelsea, Chelsea qui croyait tenir la victoire, qui se sont fait égaliser en toute fin de match par Brentford. Tottenham, 3-0 face à West Ham. Hein, West Ham qui font des débuts compliqués aussi en Première Ligue. Newcastle qui sont imposés un petit 1-0 face aux Wolves avec le premier but de Weltmed en Première Ligue. Et Arsenal qui sont imposés face à Nottingham Forest, 3-0. Nottingham Forest aussi, hein, le coach qui a été limogé parce qu'il ne s'entendait pas bien avec le président, avec la direction. Mais Nottingham Forest qui font une énorme perte aussi hein, parce que c'est un coach qui avait...
une belle saison l'an dernier.
Oui, qui les ont menés...
À Wolverhampton, il avait déjà prouvé. C'est ouais, un très bon entraîneur.
Déjà, on avait vu la scène en fin de saison avec Marinakis qui descend sur le terrain pour lui reprocher un match perdu contre Arsenal, il me semble, dans la course avec des champions. Ouais. Et c'était n'importe quoi parce qu'ils étaient à cette époque-là, 4e ou 5e. Mais... c'était une réaction.
C'est comme Paris qui vire Ancelotti à l'époque.
C'est à la De Laurentiis ou à la.
Non, Carlo Ancelotti est revenu là-dessus. Il a dit qu'il n'a pas été viré, qu'il voulait rester et que c'est lui qui voulait partir. On te propose le Real Madrid.
Non, bien sûr, mais en fait, il y avait une histoire de prolongation avant que Paris a fait traîner par rapport à une défaite ridicule à Reims. Et ce qui a fait qu'en fait, il était plus sous contrat et il a eu le choix. Et que c'est là qu'effectivement, il a pris le Real, ce qui est normal. Mais Arsenal, je voulais revenir une seconde dessus. Assez solide. Gyökeres qui tarde à prendre ses marques. Par contre, Madueke, le match qu'il fait hier, s'il fait toute la saison comme ça, il n'y a plus aucun supporter d'Arsenal qui va le critiquer. Il a mis le feu au côté gauche de Forest. Et non, Arsenal et Zubimendi, sur qui j'avais des doutes aussi sur son adaptation en Première Ligue, a l'air de très bien y arriver. Ouais. Donc Arsenal, pour moi, pourquoi pas. Allez, ça fait 20 ans qu'ils dorment, pourquoi pas le prendre cette année.
Ce serait bien, ça change.
Moi, je suis inquiet pour Aston Villa.
Ah oui, très inquiet.
Ouais, les Villains, ouais, vraiment.
Pourtant, qui n'ont pas mis un seul but en 4 matchs. Hein. C'est la première fois que ça leur arrive, tout simplement. Hein. On peut penser à Durant qui est parti... quelques joueurs qui ont
John Duran aussi, quel choix de carrière catastrophique. Voilà. Qui joue à Fenerbahçe après.
C'est compliqué.
Tu recrutes Jadon Sancho, Lindelof.
C'est assez compliqué.
C'est des joueurs référencés, mais qui ne sont pas forcément sur des bonnes dynamiques. Et donc, ils arrivent pour se relancer comme Aston Villa l'a fait avec Rashford ou Asensio l'an dernier, mais on n'a pas l'impression que.
Il y a ce faux départ du gardien de l'Argentine, là.
Oui,
Emiliano Martinez.
Puis ils ont pris Bizot à la place, qui était venu pour remplacer à la base, sauf que l'autre part pas. Une gestion bizarre.
Excusez-moi, on va juste rappeler rapidement le classement. Liverpool qui sont premiers, Arsenal deuxième, égalité avec Tottenham troisième, Dortmund quatrième, Chelsea cinquième avec 8 points, Manchester City avec 6 points, Newcastle avec 5 points, Crystal Palace avec 6 points aussi, United avec 4 petits points.
United, on attend combien de temps pour remettre en question Amorim?
Ça
fait un an là quand même.
Ça fait pas un an quand même. On y est pas
encore. C'est en octobre, je crois.
Non,
c'est après.
Non, il est arrivé après la trêve. Pendant la trêve là.
Ah, il est arrivé en janvier.
Parce qu'avant Nistelrooy, il rappelle.
Il est arrivé pendant la trêve.
Non, rappelle-toi,
parce qu'avant Nistelrooy, qui fait 6 matchs avant, où ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a 4 victoires sur les 6 matchs, quelque chose comme ça.
Ah ouais,
ils choisissent quand même de le mettre dehors.
Je pensais qu'il était là en
il y a quasiment un mois, je crois, entre le licenciement de Ten Hag et l'arrivée de Amorim.
Il a vraiment attendu la trêve pour partir. Parce que Sporting, ils avaient joué contre City, il leur avait claqué un
Oui, mais je pensais que c'était 4-0. Une petite trêve, là. Tu sais, les trêves de 2 semaines qu'il y a en international. Trêve internationale, je pensais.
Non, je crois pas non plus.
Voilà, en tout cas, et dans le bas de tableau, West Ham 18e, Aston Villa 19e et les Wolves avec 20e.
11 novembre, Amorim à United, 11 novembre.
Ah ouais, je le voyais plus tard, ouais, effectivement.
Ok. Voilà en tout cas de ce qui est de la Première Ligue. On va se faire une petite virgule très rapide avant de revenir avec la Serie A et la Bundesliga. On va faire une paire de coups très rapide. On arrive. La Serie A, on a pu voir les frères Thuram nous offrir un magnifique spectacle, un but contre but, avec célébration contre célébration. On a pu voir des rires aussi. On n'a pas vu beaucoup de larmes. Ce qui a été reproché aussi à Marcus Thuram, hein, les supporters interistes qui n'ont pas aimé sa façon d'agir après le but. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ce match spectaculaire à bout? Très rapidement, on va prendre juste deux témoignages.
C'était un très, 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 très gros match, je ne sais pas, mais un match spectaculaire en tout cas, dans le sens des buts, dans le sens des actions à gauche, à droite. Moi, je trouve que c'est une hérésie. On est dans un football, encore une fois, en début d'émission, on parlait d'émotion. C'est une hérésie de reprocher à un joueur de foot de sourire parce que son petit frère a marqué un but. Enfin, voilà, quoi. C'est un duel fratricide. Je marque, il me répond. En plus, il fait ma célébration. Enfin, non, mais j'ai trouvé que c'est dommage pour l'Inter, pour le coup, c'est dommage pour l'Inter. Ça aurait pu lancer leur saison ce match-là, mais je trouve que c'était un très bon match. Ça montre encore à quel point, moi, je trouve qu'Igor Tudor est sous-côté. Quand tu as besoin de spectacle, tu appelles Igor et il t'en offre. Et c'est le papa Thuram qui devait être content. Je pense qu'il était pour la Juve, hein, Lilian.
Oui. On l'a vu tirer la tronche après le but, On a vu le tirer la tronche après le but de Marcus Thuram.
De Marcus. Oui. Bah, Kefren a très bien répondu. Et non, c'était vraiment un match spectaculaire. Et ça fait du bien de voir ça en Serie A, où on a des matchs assez fermés habituellement. Bah, voir ce genre de résultat, ça fait du bien aussi.
Merci, Abou. Maxence, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, ça nous réconcilie avec la Serie A, comme tu disais, Abou. En plus, l'année dernière, on n'avait pas trop accès à ce championnat-là. Donc. C'était des matchs qu'on voyait pas ou qu'on avait dû, enfin, dans des conditions un peu délicates. Et là, ça fait du bien. Les chocs de Serie A, souvent, on a l'image de l'ancienne Juve d'Allegri où les chocs, c'était du 1-0. C'était dégueulasse. Tu te posais le dimanche soir. C'était ton troisième ou quatrième choix parce que tu avais le gros match de Ligue 1, gros match de Liga. Et la Serie A, ça venait après, quoi. C'était quand t'avais tout terminé ou que...
Même sur Beansport, c'était sur Beansport 3 c'était ou ton... sur Max.
C'était ton troisième écran sur le téléphone, quoi. Tu regardais en vite fait. Et là, t'as un vrai match avec des équipes sympas et joueuses. Bon, l'Inter qui est pour moi en fin de cycle et pour moi, ça va être très compliqué leur saison. Mais la Juve qui se refait une santé, qui s'est qualifiée en Ligue Champion l'année dernière et qui, cette année, a des mecs plutôt sympas à avoir joué. Le petit Yildiz, il est très, très fort. Moi, j'adore ce joueur.
Le fils contre Sao,
c'est sympa aussi. C'est des joueurs un peu frissons et puis un coach qui est un peu taré, mais qui fait bien jouer ses équipes. Donc je pense que en se posant devant un match de la Juve cette saison, on risque pas de s'ennuyer. Et ça, c'est déjà une grosse qualité pour une équipe.
Très fort, Igor Tudor. Vraiment, coach sous côté. Quand j'ai vu en fin de saison dernière qu'il y avait débat sur la prolongation ou pas du Igor Tudor, je trouvais ça affolant, quoi. T'avais pas meilleure option sur le moment.
Et même l'image qu'il a à Marseille, elle est bizarre parce qu'elle n'est pas si bonne que ça. Alors que pour moi, ce qu'il a fait à l'OM, c'est exceptionnel.
Oh oui,
finir deuxième, plus en Ligue des Champions, parce que le parcours en Ligue des Champions de l'OM, on n'a jamais été aussi digne sur les 15 dernières années en Ligue des Champions qu'avec Tudor.
En plus, Sampaoli, Villas-Boas.
C'était ridicule à chaque fois. Et là, tu joues Sporting, tu prends 6 points en 2 matchs. Tottenham, on se souvient du match, c'était tu dois passer en 8e. Donc c'est un truc, il t'a battu le PSG en Coupe de France, il t'a fait une saison Tudor qui est exceptionnelle. Et pour moi, c'est un entraîneur sous-côté.
Merci, Maxence. On va juste rappeler le classement. Hein. Naples avec 9 points. Premier, Juventus à égalité avec 9 points. Cremonese avec 7 points. Udinese avec 7 points aussi. Et l'AC Milan, 5e avec 6 points. En bas de tableau, on a le Genoa, Parme et Lecce. Voilà pour la Serie A. La Bundesliga, le Bayern, tout simplement trop fort, hein, qui ont saccagé ce week-end 6-0. Hein. C'était une démonstration de force. 5-0 face à Hambourg, avec notamment un doublé de Harry Kane, Luis Diaz aussi, qui s'est très bien acclimaté du côté de l'Allemagne. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas?
Moi, j'aime beaucoup cette équipe du Bayern. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais le début de saison de Michael Olise, il est absolument exceptionnel. Ce qui montre
phénoménal dans le jeu.
Alors Kane, effectivement, c'est la star, c'est le buteur, il prend ses responsabilités, il est super. Luis Diaz s'acclimate bien, etc. Upamecano, on en parle peu, mais Upamecano, là pour
le meilleur central français.
Ah, j'allais dire top 5 mondial là. À l'heure actuelle, ce qui montre là, mais c'est monstrueux, que ce soit dans la défense, la couverture de jeu, les duels ou même l'orientation avec. Il commence à refaire un peu des passes longues, etc. Et il est toujours super précis. Non, Upamecano, c'est exceptionnel ce qu'il montre. Et Olise, vraiment, moi je suis amoureux, même ce qu'il fait, c'est toujours beau. C'est toujours utile pour le collectif. En début de saison, même quand Kane montait seulement en puissance, c'était déjà Olise qui tenait vraiment le jeu de l'équipe, quoi. C'est lui qui va mener, c'est lui qui va créer des actions. Et je me dis qu'en fait, quand Musiala va revenir, ça peut être une équipe qui est inarrêtable. Donc franchement, le Bayern, j'adore ce que je vois. Par contre, effectivement, je suis un peu sur ma faim. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux autres équipes. Dortmund, j'attends de voir ce que ça va donner. Et Leverkusen, j'ai peur que ce soit une saison vraiment difficile pour eux.
Merci. Leverkusen, hein, Erik ten Hag qui a été limogé dès la deuxième journée. Est-ce que tu comprends ce choix, Cheikh Kenza?
Ouais. Bon, après aussi, je crois que
c'est un
vraiment
qui sortait du cœur.
Ouais, en fait, oui, vraiment ce choix, moi, je le partage parce que vu déjà ce qu'il propose et tout, et je sais pas pourquoi ils ont opté pour Erik ten Hag, parce qu'en fait, je crois qu'il y avait des entraîneurs vraiment qui étaient vacants, voilà, qui ont eu de longues vacances, d'autres même certaines 2-3 années, vraiment.
il aurait pu avoir pu mieux, parce que moi je suis pas fan de d'Erik ten Hag depuis, en fait.
Dans l'esprit, je comprends, c'est une suite logique à Xabi Alonso, c'est des coachs qui... dans ouais. l'esprit en tout cas.
Le problème n'était pas que sportif. Ouais, en fait. Le problème n'était pas que sportif, parce que sinon il l'aurait pas viré au bout de deux journées. C'est un problème aussi de communication,
de management, en fait.
Posture avec les autres dans le club, le directeur sportif, si, le président. Ça, ouais. Il est arrivé un petit peu en complètement taré.
Un feu follet, comme on dit, en fait. Il est arrivé, il veut automatiquement prendre les rênes et tout. Pourtant, en Allemagne, c'est les institutions, en fait, déjà le président. Ensuite, en fait, il y a le vice-président. Mais très rapide, comme on dit, il y a le directeur sportif. Il y a plein de blabla. Moi, je ne partage pas vraiment cet homme, vraiment, entre guillemets, j'aime pas vraiment son management et tout ça. Donc du coup
depuis l'affaire Cristiano Ronaldo, je suppose.
Non, hormis ça, mais c'est quelqu'un que
je déteste depuis ça.
En fait, il y a pas que ça, c'est quelqu'un que moi j'apprécie pas, en fait. Oui, je crois qu'il est un peu surcoté. Donc bon,
après
du coup,
l'Ajax,
ouais.
son Ajax c'était quand même sympa à voir.
Ouais, la génération après, en fait,
la génération
après,
qu'il a eu à l'Ajax, c'était
ouais,
aussi
après,
sympa.
Après l'Ajax, on a rien
ouais, mais après
vu
ils ont pas tous fait des carrières de fou,
voilà, après on a rien vu de concret et tout ça. Donc je crois que c'est des choses qui arrivent, en fait. C'est des choses qui arrivent, on peut faire une saison XL et après retomber dans les travaux et tout ça. Donc c'est des choses qui arrivent. Et je crois qu'ils ont bien fait de s'en séparer. Et là, aujourd'hui, en fait,
demain,
on voit que les résultats...
Demain, t'es supporter de l'OM ou d'un club de ce gabarit-là, tu fais demi-ligue des champions.
Oui, bon.
T'en souviens un peu.
Moi, vraiment, comme je dis, en fait, je ne partage pas son avis. Ils ont bien fait de s'en séparer. Parce que là, vraiment, les deux premiers matchs, ce qu'on avait l'habitude de voir, même la saison dernière avec Xabi Alonso, c'était pas ouf comme l'année du titre. Mais on sentait vraiment que, voilà, que l'équipe...
Il y avait du jeu, ouais.
Voilà, il y avait du jeu, en fait. L'équipe, vraiment, voilà, produisait du beau jeu pour le spectacle et tout ça. Et quand le Velupa, en fait, mais c'est, en fait, c'est une ville de football, déjà. Donc, ils ne peuvent pas se permettre, déjà, de débuter la saison, vraiment, pas de défaite. Et avec aucun jeu, en fait, cataclysme dans l'attitude, surtout des joueurs et tout ça. Et on a vu que le recrutement, ouais, c'est aussi un déphasage avec ce qui, vraiment, propose cette équipe. Et donc, du coup, je crois que il aurait dû vraiment débarrasser le plancher bien avant même le deuxième match.
Ah ouais, t'es dur
avec
lui. Donc,
avant de commencer.
Bien avant le deuxième match, ça veut dire quoi ça,
ouais, le premier match, il aurait dû partir.
Pourtant, chez Kenza, ils menaient 3-1. Ils se sont fait rattraper 3-2, 3-3 en fin de match.
Et pour le coup, les Verts,
c'était pas mal. Mais regardez, en fait, comme le dit ou pas. Oui, c'est-à-dire, dès le deuxième match, déjà, tu t'imagines qu'un match auquel tu maîtrises et tu mènes 3-1.
Mais ça arrive.
Ouais, ça arrive. Mais poser la question à Ancelotti, la défaite.
La greffe n'a pas prise.
Non, la défaite d'Istanbul. Même là, il a encore
mais
dans
sa tête.
C'est
la finale des champions. C'est,
voilà.
Là, on parle
quand on
met
les matchs.
Il a bien digéré. Il en a gagné 4 après.
Ouais,
c'est
même
ça.
Là, on a gagné 4, mais on n'oublie jamais 5, cette défaite. 5, 5. Pourtant, victoires, on les savoure moins, mais les défaites, on les garde.
Et pour info, Leverkusen, c'est tout sauf une ville de football. Leverkusen, c'est une ville entrepôt. C'est une ville où le siège Bayer, la grande marque pharmaceutique, s'est installée. Il y a 100 000 habitants. Hein. Leverkusen, c'est plus petit que Vitry-sur-Seine. Hein. Donc, ville de football, doucement. voilà.
C'est une ville qui a beaucoup souffert, ça qui vous dit.
Non, mais c'est pas Naples ou Marseille. Quoi. C'est un village, c'est Auxerre.
Ils ont eu Michael Ballack.
Ouais, on peut parler de Leverkusen comme il veut. Il peut parler de Leverkusen comme il veut. Mais Leverkusen, ils ont fait plus de finales que des équipes dans la région. Tu t'imagines que chaque n'a jamais fait une finale de Ligue des Champions. Leverkusen l'a déjà fait. Tu t'imagines que Leverkusen, ils ont été le troupe fête du Bayern. Voilà, ils ont été le troupe fête du Bayern dans les années 2000 où ils perdent deux titres de façon un peu.
Non, ils les prennent pas. Là,
ils perdent. Voilà, dernière journée, voilà. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont titillé un peu le Bayern jusqu'aux dernières journées. Donc quand tu me dis c'est pas une ville de football,
non, c'est bon
que tu dois revoir un peu tes cours d'analogie sur le football dans lequel tu te trompes.
Je veux te dire, c'est pas Naples Marseille qui vibre. Tu vois ça qui veut te dire.
C'est pas une ville de football, c'est un club de football. C'est deux choses différentes.
C'est pas
ville de football.
En fait, mais quand on dit.
L'engouement, il te parle.
Ouais, quand on parle de l'engouement, le club, en fait, le club est animé par qui?
Mais c'est structuré, effectivement. Oui, c'est structuré, effectivement.
Donc, qui défend qui? Le club allumé par qui? S'il n'y a pas des habitants dans une ville, comme il dit, il y a 100 000 habitants, mais tu t'imagines qu'à chaque match, ils font carton plein. C'est-à-dire qu'elle est plus une ville de football que les villes françaises où tu en as 5 millions d'habitants et il n'y a même pas 60 000 personnes qui peuvent
Guingamp te donne tort. Guingamp te donne tort. Il y a plus de matchs.
Pas de Guingamp.
Il y en a
beaucoup de villes.
Auxerre est plus une ville de football que Paris, par exemple.
Je ne te parle pas de Guingamp. Il y en a beaucoup de villes où on voit les stades
oui,
ici, ils sont pas pleins.
Après, c'est le rugby en France, le sud-ouest.
Voilà,
c'est le rugby.
S'il vous plaît, vraiment, c'est une ville
mais
de football.
Mais pas en vacances à Leverkusen, s'il te plaît. Je t'en supplie, va à Leverkusen.
On a vu avec le titre, c'est une ville qui vit le football.
Merci. On va poursuivre après ce débat houleux enfin de démission. On va se faire une petite virgule pour apaiser les âmes un peu. Ensuite, on va revenir avec un quiz pour cette fin d'émission. On en revient de suite.
De retour dans les locaux de Montparis FM, on va enchaîner avec un petit quiz. Hein. Ça va être la fin de cette émission, déjà, oui. Qui se sent prêt à lancer le chrono, Maxence, t'es prêt ? Quel club a remporté la Ligue des Champions en 1995 ?
Ajax, d'Amsterdam.
Oui,
l'Ajax,
Ajax 94, Barça 95, Ajax.
95, Ajax d'Amsterdam, avec une équipe majoritairement issue de son centre de formation.
Patrick Kluivert, seul buteur de la finale.
Ou Nkono Kanou.
Javi Litmanen.
Oui, il y avait Kanou.
93, c'était Marseille.
Ouais.
On va poursuivre. Deuxième question. Quel joueur français a raté son penalty en finale de la Coupe du Monde 2006 ?
Trezeguet.
Trezeguet.
Trezeguet, Lucas Kier, aux aguets. Troisième question. Quel gardien a arrêté deux penalties en finale de Ligue des Champions 2005 ?
2005 ?
Doudek.
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 Contre le Milan AC, ouais, Liverpool.
Pour Maxence, pardon. On va faire encore deux petites questions. Abou, t'es endormi tu...
Non, mais ils ont quel âge autour du plateau? 2005, j'étais encore en couche, moi.
Elle est connue, 2005, c'est une sacrée finale. Hein.
Par contre, les pénaltys, il les a arrêtés, il était au-dehors de ses 6 mètres.
Quel pays a accueilli deux fois la Coupe du Monde sans jamais la gagner?
L'Angleterre. États-Unis?
Non, États-Unis, non.
Deux fois la Coupe du Monde sans la gagner?
Oui.
Le Mexique?
Le Mexique.
Oh, c'était ma deuxième, c'était bien ma deuxième guess, bien joué.
Le Mexique... Quel joueur a reçu le plus de cartons jaunes dans l'histoire de la Ligue des Champions ?
Sergio Ramos.
Sergio Ramos. Même le rouge, ça doit être lui.
J'étais Cyril Roule en Ligue 1 ou Sergio Ramos en Ligue des Champions ?
T'as bien révisé, ça.
C'est bien ça.
Je vois quel âge on voit les questions en avance à Lucas. C'est bien.
Ah ouais,
bravo.
Bravo.
Ah, donc maintenant, c'est plus fair play. C'est là les bons exemples de football. Il n'y a même plus de fair play, d'accord ?
Il n'y a plus de fair play.
Bah c'était la dernière question.
Ah bah oui,
ils sont posés une. Quelle équipe gagne la Ligue des Champions en 96
La Juventus et après Dortmund 97.
Il a posé la question,
il donne même pas la réponse avant. Et avant qu'il donne la réponse, Lucas l'avait déjà donné. Donc Lucas est le grand gagnant de ce soir. On se dit très bonne soirée à vous. Oui, à
juste
vous.
Avant qu'on se quitte, on commence en retard un peu. Désolé, moi je mange au 31, hein, tu vois, je fais plus que je veux ici maintenant.
Bon appétit, monsieur. Abou qui va bientôt nous quitter, hein, il va être là avec nous en tout cas durant ces prochaines semaines, tous les soirs, le lundi.
Je meurs pas, je vais bientôt vous quitter.
Non, il va partir travailler chez les concurrents. Voilà.
Oui, vers de nouvelles aventures. Camarade. Mais vraiment, regardez, en parlant de concurrence, regardez le documentaire sur Samir Nasri, Rebelles, ceux qui ont Canal+. Je vous le conseille vraiment, c'est un excellent documentaire.
Très intéressant.
Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai regardé hier soir, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Et de deux, ça nous change l'image qu'on a de Samir Nasri, qui est un peu tête brûlée, racaille.
C'est un peu le but du documentaire, quand même. Donc oui, mais opération réussie, du coup.
Opération réussie. Et dans le fond, je pense que c'est un bon gars. Quand tu le vois sur les plateaux télé, en vrai, tu te dis, c'est loin de l'image qu'on nous a vendue.
Je pense qu'il a été
dépassé
par pas mal de trucs, parce qu'aussi, il était jeune et il y avait beaucoup de. À ce moment-là, l'équipe de France, tout, c'était catastrophique. Mais je pense que c'est un mec bien. Ouais.
Et il le dit lui-même. Et... Au début, le journaliste lui demande, il lui dit, on a entendu beaucoup de choses sur vous. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il dit, dans le fond, je pense qu'il y a un peu tout qui est vrai, en fait, de ce qui a été dit de moi.
Il assume ses erreurs aussi. Ouais.
Non, très beau reportage avec ses frères jumeaux, sa sœur, sa mère, avec Fabregas, avec Vieira. Et je vous le conseille.
Benatia.
Voilà, vraiment, si vous avez Arsène Wenger aussi, ça nous a fait plaisir de le revoir. Donc, je vous conseille le docu sur Samir Nasri. Et je dis pas ça parce que je suis marseillais et qu'il parle très bien de Marseille dans le doc.
Merci.
Après, c'est un minot, donc s'il parle pas bien de Marseille.
Chekenza, merci.
Un minot, s'il parle pas bien de Marseille, c'est qu'il est ingrat.
Merci. En tout cas, on va vous remercier. On remercie Jason à la technique. Merci Chekenza. Merci Lucas. Merci Abou. Merci à Maxence. Et merci à vous d'être là et de nous écouter tous les lundis soirs. En tout cas, là, on est reparti pour une nouvelle saison. Et on espère que vous allez bien vous porter pour la semaine prochaine. J'ai parlé un peu comme un robot. Et on se dit à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
faith.